Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Après quelques semaines d'absence, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, je reçois Camille, une jeune maman qui a vécu le cauchemar de tous parents. Alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, elle s'est retrouvée face à l'impensable, la maladie soudaine de son petit garçon de 2 ans. Du jour au lendemain, Camille s'est retrouvée plongée dans un univers bien loin des poussettes et autres choix de layettes, et a dû se familiariser avec le lexique du cancer pédiatrique. Mais alors, comment fait-on pour vivre une telle ambivalence? Comment préparer le meilleur quand on doit affronter le pire? Même si aujourd'hui son fils est guéri et sa fille en bonne santé, Camille a mis du temps pour se relever de cette épreuve dont elle nous parle dans cet épisode. Tu penses être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Camille.
Bonjour Élise.
Bienvenue sur Prenons un café.
Merci de m'accueillir.
Bah écoute, avec plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Je m'appelle Camille. J'ai 2 enfants, Léon et Augustine. Léon qui a 5 ans et Augustine qui a 2 ans et demi. Je suis mariée à Clément depuis 6 ans, je crois. Et je suis éducatrice spécialisée.
Ok,
voilà.
Trop bien. Question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère?
Oui,
ouais.
Je baigne dans l'enfance, la petite enfance depuis toujours. J'avais des petits cousins auxquels j'adorais m'occuper, changer les couches, jouer. Plus tard, j'ai fait des études aussi là-dedans, j'étais animatrice, donc c'est vraiment un monde où je me sens à l'aise et où je suis bien et j'aime être avec les enfants.
Qu'est-ce que tu imaginais? Ça voulait dire quoi pour toi la maternité avant d'y être confrontée? Qu'est-ce que tu imaginais? Comment serait ta vie de famille, tout ça?
J'ai pas l'impression que je l'imaginais. Je me laissais un peu vivre. J'imaginais avoir 2 enfants. J'ai 2 enfants. J'ai un mari. Une maison, j'ai une maison. Voilà. Mais c'était plus la forme. Mais sur le fond, je sais pas. Ça avait pas l'air difficile. Un petit peu, mais pas. Dans tous les travails que j'ai pu faire, c'était du loisir. Donc, les enfants, ils étaient agréables. On était là pour jouer. Tout ce qui était quotidien, en fait, ça n'existait pas. Même si en colo, il y a quand même du quotidien. Mais en fait, non, je ne me rendais pas forcément compte.
Ouais.
Et effectivement, j'ai un peu découvert tout ça avec Léon, en fait.
Ouais.
Donc, je me suis un peu laissée porter. Et puis, Léon a entraîné Augustine. Et puis, voilà.
Ça t'a pas découragé?
Non. Avec Léon, c'était plutôt facile. Avec Augustine aussi, c'est plutôt facile. C'est des enfants qui sont agréables, curieux. Enfin, donc, ouais. ça reste agréable. Après, voilà, tout ce qui s'est passé complexifie un peu la chose.
Ouais, carrément. Tu dis que tu es mariée avec ton mari depuis 6 ans. Si je calcule Léon, tu dis qu'il a 5 ans et 5 ans?
Oui, c'est ça.
Ouais, je sais pas où je l'ai mis, le ennemi, mais bon, 5
si,
ans.
Si, il a 5 ans et demi.
Il a 5 ans et demi. Donc, du coup, c'est quelque chose, pour vous, c'était une suite logique d'avoir des enfants, enfin, de passer...
Alors, on se connaît depuis 12 ans avec Clément. On est ensemble depuis 12 ans, on s'est mariés donc quelques années après. Effectivement, oui, quand on s'est mis ensemble, oui, c'était pas vraiment un sujet, mais c'était pas non plus pas un sujet,
ouais,
quoi.
Ouais,
donc,
ouais.
On savait qu'à terme, voilà, on voulait construire une vie de famille. Et... en éducateur spécialisé, moi j'ai quand même eu du mal à trouver un travail, donc je voulais une situation stable. Je voulais aussi avoir un foyer qui puisse accueillir une famille. Donc voilà, on a monté notre projet un peu avant. Et puis après est arrivé Léon, quoi. On s'est mariés, puis est arrivé Léon. Enfin, ça paraissait logique.
Assez facilement finalement. Enfin, vous n'avez pas eu de difficulté dans la conception, tout ça?
Pas du tout. Un ou deux cycles, et puis Léon était là, et idem pour Augustine.
Ah,
voilà,
bien.
Ça a été plutôt facile. Ouais. C'est pour ça, on n'a pas non plus hésité pour Augustine, parce que on n'a pas eu de difficultés particulières. Quoi.
Carrément. Comment tu réagis justement quand tu apprends que tu es enceinte pour la première fois?
Beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitation et tout de suite aussi pas mal de peur. Autour de moi, il y a quand même pas mal de personnes qui ont fait des fausses couches. Et je sais en fait, je sais que ça peut arriver en fait. Donc la grossesse, tout de suite, je suis très contente, mais je suis très prudente aussi. Ouais. Je me réjouis, mais puis je suis très malade. Pour Léon, les 4 premiers mois, c'est intense, hein. Beaucoup de nausées. Alors, pas de vomissements, mais c'est pas mieux la nausée, ouais. En fait. Donc, effectivement, une grossesse un peu difficile, même émotionnellement. C'était pas... J'aime pas trop être enceinte, en fait. Okay. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Encore pire pour Augustine, ouais. Mais voilà. Du coup, ouais... J'étais très contente, Clément aussi, c'est ce qu'on voulait, donc on était vraiment contents. Mais ouais, difficile quand même. Ouais.
Léon avait quel âge quand vous vous êtes dit, tiens, peut-être qu'on pourrait recommencer?
On a vécu le Covid avec Léon, ouais. Qui avait 18 mois, et puis on s'était toujours dit qu'on ne voulait pas deux enfants avec trop d'écart. Mmh. Donc, 2-3 ans, ça paraissait bien. Léon a fait ses premières nuits entières à 18 mois.
Et tu t'es dit, tiens, maintenant que je redors, si oui. J'arrêtais.
On s'est dit que tous les enfants étaient différents, ouais, c'est ce que tout le monde nous dit. Donc forcément, on s'est dit, c'est tout. Non, après le Covid, donc Léon avait 18 mois au début, donc vers 20 mois, on s'est dit, là c'est cool avec Léon, on est bien, la maison, on est bien installée. Le travail, moi j'avais trouvé un travail stable, Clément aussi, donc on s'est dit, allez, on s'y remet. Quoi. Donc on a lancé le projet en juin et en juillet, fin juillet, j'étais enceinte. Mmh. Voilà.
Est-ce qu'il y avait encore les nausées?
Bien sûr. Ah oui, oui, oui. Et puis là, les nausées, elles étaient vraiment...
Fières.
Ouais.
N'effrayons pas les gens, mais tout de même, disons la vérité.
C'était pas pire, mais le contexte a fait que c'était pire, ouais. Ouais.
Tu nous parles un petit peu de ce contexte-là.
Ouais. Du coup, donc, j'apprends que je suis enceinte d'Augustine en revenant de vacances, donc aux alentours de l'anniversaire de Léon, donc à ses 2 ans, le 25 août. Donc je fais un test de grossesse, il est positif. Et comme ma maman habite dans le sud de la France et qu'elle est là, je décide de l'annoncer à tout le monde, en fait, comme c'est assez joyeux. Donc on l'annonce à tout le monde, donc tout le monde est très content. Et puis voilà, donc là, à partir du moment où je l'annonce, forcément, je suis malade. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein, je ne sais pas pourquoi. Le fait de le dire à tout le monde, ça lance les choses. Et puis, quelques semaines après, on s'en va donc en week-end en famille, donc dans un Center Park précisément. Et puis...
Cet épisode n'est pas sponsorisé par Center Park.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je n'y mettrai plus jamais les pieds. Je suis désolée, mais voilà, ça a trop de souvenirs. Donc, on s'en va là-bas. Et puis, moi, j'étais vraiment très malade. Pas bien, je dors pas bien. Et du samedi matin, on arrive à la piscine. Et puis, donc, on décide d'aller à la piscine tous ensemble. Et puis, moi, je fais mon petit truc enceinte. Voilà, je flotte dans l'eau. Je suis contente. Un peu malade, mais je suis contente. Et puis là, ma belle-mère me dit... Clément est parti sous la douche avec Léon. Léon, ça va pas du tout. Et là, je dis, de quoi ça va pas du tout? Il a vomi. Enfin, en général, on pense à
un
ça.
Un truc assez classique.
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'à la piscine, vomir, je pense qu'il peut y avoir de grave.
Une petite diarrhée.
Oui, voilà, c'est vrai, ça fait pas penser. Effectivement. Et j'arrive sous la douche. Et en fait, Léon est... il est complètement hypotonique. Donc, sa tête pend d'un côté, son bras aussi. Je vois ses yeux qui sont plus vraiment là, en fait. Et là, je dis à Clément, il se passe quoi, là? Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Il me dit non. Et là, je dis, mais il est en train de faire une crise d'épilepsie. Alors, dans notre travail, on sait ce que c'est une crise d'épilepsie. On en voit très souvent et on a des traitements d'urgence, en général, pour les enfants qui en font. Ou les adultes, d'ailleurs. Et c'est de pire en pire. Et puis, il finit par perdre conscience et avoir des convulsions. Donc là, on appelle ça des clonies musculaires, il me semble. Donc là, son corps, il bouge dans tous les sens, ses bras, ses jambes. Je pense qu'il n'y avait qu'un côté, mais moi, tout bougeait. Donc on emmène Léon, tant bien que mal, au poste de secours qui est au milieu de la piscine, qui est bondée. Et le maître-nageur semble être complètement désemparé. Il l'assoit sur le comptoir. Je dis, mais non, il va tomber. On ne peut pas mettre un enfant qui fait une crise d'épilepsie. Il faut le mettre en PLS. Enfin, j'ai quelques notions quand même. Donc on finit par le mettre par terre. Et là, il y a une pédiatre qui est en vacances, une pédiatre belge qui est en vacances et qui nous dit « Est-ce que je peux vous aider ? Là, je vois que vous êtes en difficulté et que surtout votre enfant est en difficulté. » Donc elle regarde ses constantes, donc il respire, sauf qu'il continue sa crise. Donc là, je commence à m'énerver un peu et je dis « On ne peut pas rester là, en fait, il y a tout le monde qui nous regarde. » Moi, je commence à crier, à faire peur du coup aux enfants qui sont dans la piscine. Et donc, ils nous emmènent en coulisses de la piscine. Et puis, entre deux, je dis, il faut peut-être aussi appeler les pompiers. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Donc, je pense que c'est le maître nageur qui l'a fait. Mais il y avait déjà 5 minutes qui étaient passées, il me semble. Et on arrive dans le vestiaire. Et là, la crise continue. Donc, la pédiatre prend ses constantes. Donc, elle lui met un saturateur, je pense, au doigt. Bon, je peux me tromper dans les termes, ouais. Mais c'est un peu
c'est
fou.
C'est pour
mais,
l'oxygène,
c'est ouais,
ça
c'est ça. C'est pour savoir si ses constantes vont bien. Donc là, elle nous demande si on a un traitement de fond. On nous demande s'il a déjà des antécédents. Bah non, rien. Pas de traitement de fond. Donc, traitement de fond, c'est par exemple du Valium pour pouvoir arrêter la crise. Donc, personne n'en a. Les maîtres nageurs n'en ont pas non plus. Et donc, la crise se poursuit pendant 20 minutes. Donc, wow, au total, on est sur une crise de 25 minutes. Donc... Entre-temps, Clément prévient les maîtres nageurs que je suis enceinte et qu'il faut m'écarter parce que là, je deviens hystérique, en fait. Je crie parce que pour moi, en fait, une crise d'épilepsie, c'est forcément des séquelles neurologiques. Et donc, soit un enfant qui n'est plus avec nous, mais qui est là par son corps, mais pas par son esprit, ou soit un enfant avec un handicap physique, en fait, ou des séquelles neurologiques. Donc là, il y a tout qui me passe par la tête. Et j'en deviens, je pense, un peu hystérique, quoi. Donc il m'assoit d'un côté, j'étais encore en maillot de bain, enfin vraiment, j'avais froid, enfin ces coulisses, en plus, ils sont tout impersonnels, enfin, c'est pas fait pour le public, quoi. Donc du coup, c'était vraiment compliqué. Et puis la crise s'arrête. On avait beau lui parler, le caresser, enfin vraiment essayer de lui dire qu'on était là et qu'il pouvait, enfin, on savait pas quoi faire, mais rien n'y faisait. Et donc la crise s'est arrêtée au bout de 25 minutes. Et les pompiers sont arrivés quand la crise est terminée. Donc en fait, ils ont passé la barrière de sécurité et on a entendu, ils arrivent, sauf que c'était déjà fini. Donc ils ont pas vu en fait ce que c'était. Et après, c'est compliqué d'expliquer aux urgences ce qui s'est passé.
Mais vous étiez quand même avec cette médecin qui était
oui, mais qui est restée sur place en fait. Ouais, elle a donné son numéro aux pompiers pour si le médecin voulait appeler. Mais d'ailleurs, elle nous a recontacté après pour savoir ce qui s'était pas, enfin, si tout allait bien, en fait, s'il allait bien. Et donc, oui, elle a donné son numéro. Peut-être qu'ils se sont appelés, mais en même temps, mis à part une crise d'épilepsie, enfin, en tout cas, ce qu'on pensait être une crise d'épilepsie, il y avait pas d'autres signes. Donc ensuite, j'ai été emmenée avec les pompiers, donc en camion avec Léon, qui m'a littéralement vomi dessus, puisque souvent après une crise d'épilepsie, ben voilà. Je sais pas, lui il vomit à chaque fois. Donc...
Il avait pris conscience, enfin, t'arrivais à lui
parler
juste après.
Oui, mais il avait tout un côté qui était... Ah oui, mais il n'était pas là. Enfin, oui. On voyait qu'il était comme quand il vient de se réveiller et qu'il est encore un peu endormi. Ouais. Il est là, mais il n'est pas vraiment là, quoi. Mmh. Donc il nous parle, il essaye de nous sourire, mais il n'y a qu'un côté qui monte. Alors là, je me dis, ah ça y est, c'est bon, voilà, c'est parti. Et puis il reprend quand même conscience, il reprend des forces et un peu de couleur et un peu d'énergie assez vite. Mais voilà, il me vomit dessus dans le camion, on arrive aux urgences, enfin c'est... Très compliqué, on arrive un samedi dans un petit hôpital qui n'est pas ouvert vraiment le samedi en fait. Il n'y a pas vraiment de médecins, il n'y a que des médecins de garde qu'il faut
appeler. Quand t'es en zone rurale, en campagne, exactement. Ce genre de choses, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de personnes, de moins en moins de médecins disponibles. C'est aussi pareil pour les maternités.
Oui, oui.
Il y a des maternités qui sont fermées la nuit par exemple. Et oui,
comme si personne n'accouchait la nuit.
Bien sûr, on décide quand on accouche.
Oui.
Mais non, mais en tout cas, dans ces cas-là, si ça arrive la nuit, ils sont redirigés vers un grand hôpital, mais qui peut être à une heure de route. Donc, c'est la grosse problématique des zones rurales. Hein. Clairement, quand je dis rurales, je veux dire les zones où il n'y a pas de grandes villes, mais c'est comme ça qu'on les appelle, les zones rurales.
Ouais. Là, Lens, j'avais l'impression que c'était une grosse ville.
Lens, c'est Lens, et finalement, en fait, c'est pas une grande ville.
Ah, non.
Je connais un peu parce que je suis. Plus ou moins de cette région. D'accord. Enfin, c'est pas très loin de là où j'ai grandi. Et non, c'est pas, c'est pas des régions qui sont justement très médicalisées. Ah non. Et il y a vraiment, il y a des pénuries de médecins dans ces régions-là, ouais, clairement.
Oui, on s'en est rendu compte à ce moment-là. Alors, le service a été très, très gentil. Ils nous ont même, ils se sont même excusés parce que l'hôpital est extrêmement vétuste. Enfin, les couloirs, ils ont essayé de mettre des dessins, mais ils n'avaient pas le droit, donc il y en avait à moitié. Enfin, bref, on a été accueillis dans un contexte un peu particulier. Et en plus, sortie de Covid. Enfin, entre deux Covid. Oui. Enfin, entre deux confinements. Donc,
ouais, c'était pas simple.
C'était
assez tendu au niveau des services médicaux. Quoi.
Ouais. Donc, il a fait des examens, sauf que personne ne pouvait les interpréter, ces examens. Mmh. Et l'examen est arrivé quand même assez tard dans la journée. Or, quand on fait un épisode comme ça, il faut le faire tout de suite pour vraiment voir l'activité cérébrale. Donc, voilà, on a fait l'examen. Ils nous ont dit, on vous garde cette nuit en observation. Et on vous garde aussi demain. Et vous dormez là aussi le dimanche soir. Comme ça, vous verrez le médecin lundi matin.
Et il n'était pas possible de vous héliporter ou que sais-je, de vous diriger vers Lille par exemple, parce qu'on n'est pas si loin. Hein.
Il n'y avait aucun danger
en fait. Ou même Valenciennes ou même.
Non, il n'y avait aucun danger. En fait, on nous a expliqué que les crises d'épilepsie chez les enfants, enfin les crises d'épilepsie, ce qui semblait être une crise d'épilepsie était très commun chez les enfants de cet âge-là, avec la fièvre ou bien. Je ne sais pas trop, mais c'est courant en fait.
Souvent,
ça arrive, oui. C'est pas grave.
Mais c'est long quand même. Enfin, moi, j'avais pensé que, enfin, dans mon imaginaire de personne qui n'y connaît rien, ça dure genre 5 minutes, tu vois.
Non. Une crise ?
Ouais.
Ah, bah, il
n'y a pas de règles.
Bah non, il n'y a pas de règles. Et justement, le traitement d'urgence, donc par exemple le Valium que maintenant Léon a, tu ne l'administres qu'à partir de 5 minutes.
D'accord.
Avant. Parce que bien souvent, les crises. Elle s'arrête à 5 minutes.
Ouais.
Par contre, au-delà, il y a un risque pour le cerveau, en fait, pour le corps.
Okay.
Donc, effectivement, là, il n'y avait pas de danger, mais en même temps, c'était quand même une grosse crise. Donc, on reste en observation. Okay. Il était branché de partout, donc sur le cœur, la tension. Enfin, il a passé une nuit affreuse. Ouais. Et moi aussi, enceinte, dans un hôpital, enfin voilà, avec des nausées.
Ouais.
Voilà.
Bien sûr.
Très sympa, parce que je dois manger si je ne veux pas avoir de nausées, sauf que je ne peux pas manger puisque j'ai rien à manger.
Ouais.
Voilà. J'avais pas prévu assez de vêtements également.
T'étais toujours dans ton maillot de bain ?
Oui, j'étais toujours dans mon maillot de bain. Donc Clément, qui est venu après, donc, m'a ramené des vêtements, m'a ramené les jeux, les quelques jeux qu'on avait pris, parce qu'on pensait pas du tout avoir besoin de jeux à Center Park. Hein. J'avais pris genre, peut-être une serviette, mais tu sais, les serviettes microfibres, parce qu'on partait en week-end. Enfin voilà, on n'avait pas besoin de confort absolu. Bon, bah là, j'aurais eu besoin d'un peu plus de confort. Donc, autant te dire que maintenant, quand je pars en vacances, j'ai
tu
trop de
un
choses.
Minivan.
Exactement. Je ne suis plus du tout minimaliste. Je prends plus de sous-vêtements, parce que ça, c'est pareil. Il m'a vomi dessus. Moi, j'avais pris qu'un seul jean. Mm. En plus, enceinte, enfin, tu n'as pas 36. Donc, voilà, j'étais vraiment en difficulté. Ça va, c'était en septembre, donc je pense que j'étais en Europe. Hein. J'ai réussi à me débrouiller. Mais franchement, maintenant, je suis très prévoyante. Ouais. Avant, je l'étais déjà, mais là, je suis extrêmement prévoyante. Les autres peuvent compter sur moi.
C'est ça.
Donc, on a passé la nuit là, donc il ne s'est rien passé. Du dimanche, on a eu le droit de sortir un petit peu d'hôpital, donc aller voir les hélicoptères qui atterrissaient, donc les urgences, repartir, etc. Mais c'était très très long, quoi. En plus, il n'y a personne dans les rues. On n'avait pas le droit de s'éloigner trop au cas où s'il y avait une crise. Donc, je sais que Clément a fait des allers-retours pour aller acheter un jeu à Léon. Jeu que j'ai en horreur aujourd'hui, c'est bizarre. Et puis, du dimanche soir, j'ai redormi là. Clément est reparti à Center Park. Et du lundi matin, ils nous ont dit, vous pouvez sortir. Le médecin va interpréter les résultats dans la journée. Donc, vous pouvez rentrer. Donc, je n'ai pas compris, mais c'est pas grave.
Pourquoi vous étiez resté, du coup ?
Je
et
pense
Léon
que c'était observation.
Tout ça, il était redevenu Léon ?
Oui. Oui. Il remarchait correctement.
C'était un bon signe.
Je pense que c'était pour ça qu'il voulait aussi nous garder. C'était pour voir s'il y avait des séquelles, en fait. Et finalement, non, il marchait très bien. Il parlait comme il parlait à cet âge-là. Il jouait. Enfin, il n'y avait pas de souci. Il mangeait comme il fallait. Lui, c'est un garçon. C'est un petit garçon qui a toujours été très souriant, très joyeux, à nous faire des blagues, même à cet âge-là. Enfin... il était le même. Donc, effectivement, on était très rassurés. On s'est dit, allez, c'est tout, c'est un coup de malchance. On trouvera peut-être ce que c'est. Et puis, on nous a dit, vous ne trouverez peut-être jamais ce que c'est.
Oui, peut-être que c'était une crise comme ça, en passant.
Peut-être.
Sauf que ce n'était pas le cas.
Sauf que ce n'était pas le cas. Donc, on est rentrés à la maison. Moi, j'ai repris le travail et j'ai demandé à voir mon médecin traitant aussi pour avoir un traitement d'urgence parce que ça m'angoissait qu'il refasse une crise. Donc, mon médecin traitant a été très, très rassurant en se disant qu'effectivement, ça arrivait à plein d'enfants. D'ailleurs, ces enfants en ont eu. Ils sont toujours là, donc tout va bien. Et donc, effectivement, il nous a prescrit donc, du Valium. C'est assez invasif comme traitement. C'est un traitement intrarectal. Donc, c'est une canule qu'il faut injecter dans une seringue et qu'on injecte donc dans les fesses.
Oui, parce que tu ne peux pas avaler quoi que ce soit.
Il existe deux traitements. Ouais, donc, il y a le bucolame, c'est dans la bouche. Mais il faut arriver à atteindre la bouche et c'est la gencive. Donc c'est vraiment une gymnastique avec des risques parfois que la bouche se ferme. Et par contre, intrarectal, bon, bah, c'est le plus simple, mais c'est très invasif. Pour en avoir déjà fait au travail, c'est extrêmement invasif, quoi. Puis devant tout le monde parfois, parce qu'on n'a pas le choix, même si on isole les gens, c'est pas très... Pour la personne, c'est vraiment... Après, c'est il est fou. Petit, mais ouais, c'est,
oui, mais
c'est
même,
pas agréable.
C'est pas, c'est, t'as pas envie de passer
non,
par là.
Non, c'est quoi. Très intime, en fait. Donc, on s'est dit, bah, c'est tout. On l'aura toujours avec nous, on va le donner à personne. Je l'ai pas donné à la nounou. Donc voilà, mon médecin traitant m'a donné son numéro perso. Il m'a dit, s'il y a le moindre problème, j'avais même donné à la nounou, tu nous appelles. C'est un village, hein, j'habite, donc on est tous un peu dans la même rue, donc il n'y avait aucun souci. Donc moi, malgré tout ça, je reprends mon travail, pas en forme, mais voilà, j'y vais, c'est tout. Et puis au fur et à mesure de la semaine, franchement, il est bien. On se dit, ça y est, c'est tout, voilà, c'est pas grave. En parallèle, on attendait quand même le compte-rendu de l'hôpital de Laon. Et puis, donc, il est arrivé un lundi, le résultat. Donc, j'ai été le chercher le lundi soir. Et donc, dans ce compte-rendu, il était noté qu'il y avait une activité anormale au niveau du cerveau. Donc, le CG montrait une activité anormale. Donc, il fallait qu'on aille prendre rendez-vous à l'hôpital pour faire des examens complémentaires.
Ok. Est-ce que tu as senti une urgence particulière dans ces courriers ?
Ouais, moi, j'ai un peu... Déjà, là, je me suis dit, là, il y a quelque chose.
Ouais.
Là, il y a un truc.
Parce que je trouve ça assez fou qu'ils t'ont envoyé un courrier et qu'ils t'aient pas téléphoné.
Alors, je crois qu'ils m'ont téléphoné.
D'accord.
Sauf que je suis encore aujourd'hui assaillie de démarcheurs. Mmh. Et donc, du coup, j'ai pas décroché, en fait.
Mais ils auraient pu mettre un message vocal.
Bah, elle a fini par me laisser un message vocal, mais en fait, c'était déjà passé.
Enfin, d'accord. Voilà. Okay.
Mais je crois qu'elle m'a contactée, mais encore une fois, c'est un hôpital, comme tu dis, dans une zone rurale. Et donc, déjà, ils auraient pu m'appeler dans la journée et ils ne l'ont pas fait, en fait. Ouais. Donc... Ou alors ils l'ont fait, je sais
parce
pas.
Parce que je trouve ça délicat de te laisser seule, en fait, face à ces résultats. C'est compliqué, tu vois, de dire, tu comprends pas forcément ce qui se passe. Enfin, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète ? Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète pas ? T'as envie d'avoir la personne qui, en face de toi, te dise, te laisse pas seule avec des choses que tu sais pas forcément interpréter. Ouais. C'est pas ton rôle de
t'interpréter ces résultats. Ah non, puis alors moi, dans ma tête de femme enceinte...
Oui, j'imagine absolument tout ce qui est possible.
Éducatrice spécialisée, là, c'était parti dans ma tête. Hein. Mais j'étais loin de m'imaginer ce que j'allais découvrir un peu plus tard.
Oh là là, quel teaser.
Donc du coup, je dis à Clément, je dis moi je peux pas, là il faut qu'on aille voir le médecin traitant pour qu'il fasse un courrier parce qu'on peut pas aller à l'hôpital comme ça en fait. Il faut que soit le médecin traitant qui nous adresse à un spécialiste. Donc étant en Covid, pas de consultation sur place, que des téléconsultations. Ouais. Donc avant mon travail mardi matin, je m'en souviens très très bien. Mardi matin 8h, j'ai une téléconsultation, donc je lui parle du courrier qu'il a reçu aussi en parallèle. Il me dit effectivement, Camille, je vais faire un courrier, puis tu vas être convoquée là cette semaine ou enfin dans le mois. Alors je me suis dit pas d'urgence. Enfin voilà, je me dis dans le mois, c'est que c'est pas très grave. Donc je m'en vais au travail, je fais mes séances, tout va bien. Et puis midi 10, je vois le téléphone qui sonne, Clément. Donc je décroche, pas inquiète plus que ça parce que on s'appelle souvent dans la journée, donc pas de souci. Et là il me dit, ça a recommencé, Camille. Il a fait une absence, je suis avec le SAMU, il nous emmène à l'hôpital. Viens. Moi, j'étais avec mon sandwich en train de pendant ma pause. Et j'ai tout quitté. Je suis partie, je ne sais même plus comment. Je ne me souviens pas. J'ai roulé comme une dingue. Mais j'arrive à la maison, bien sûr, ils étaient partis. Et donc, je prends des affaires. Je rassemble des jeux, des culottes. Enfin, tout.
Ah oui, tu anticipes là.
Ah oui, mais je sais que là, on va y rester en fait. Là,
ah
j'ai
oui,
un
tu
pressentiment.
Savais.
Ah ouais, je me suis dit. Là, c'est pas possible. Il y a un truc, deux crises en une semaine. En
puis
fait,
avec le courrier que t'as reçu entre-temps.
Ah oui, je savais. Là, je me disais qu'il y avait quelque chose. Moi, je pensais, une méningite ou une encéphalopathie. Enfin, je sais pas. Il y avait des noms qui me venaient comme ça. Et puis là, je croise ma belle-mère qui me dit « Tu conduis pas comme ça, je t'emmène. » Donc, elle m'emmène. J'étais en train de pleurer. Enfin, je savais pas ce qui se passait. J'arrive aux urgences, Covid. Non, madame, un seul parent.
Ah, mais non.
Ah, je dis, je crois pas, non.
Oh mon Dieu, c'est atroce.
Ah oui, je commence à faire un scandale.
Mais c'est vrai que c'était l'époque où on faisait ça. Enfin, c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais
ouais, voilà, quand même.
Mais non, tu peux pas faire ça.
Donc là, je dis, mais en fait, c'est pas possible. Bah, il faut que votre mari vienne et puis vous échangez. Donc mon fils, il reste tout seul.
Mais quel est le sens, en fait ? Surtout qu'en fait, vous allez échanger. Donc en fait, aujourd'hui, on sait que s'il y avait eu virus, il y aurait virus, on va dire, clairement.
Bah ouais. Donc du coup, je commence vraiment à pas être bien et tout ça. Donc elle me dit, attendez dans la salle d'attente, je vais voir comment on peut faire. Et là, il y a le monsieur de la sécurité qui me voit et me dit « Madame, venez ». Donc j'ai dit « Oui, je vais vous emmener, je sais où ils sont ». Donc il avait vu mon mari arriver une demi-heure avant, il me dit « Je vous emmène ». Donc il m'emmène dans le box de Léon et Clément. Et puis je vois Léon qui est tout pas bien, comme la première fois, mais voilà, qui reprend un peu de vie. Il dit « Maman, j'ai faim ». Je dis « Oh ». J'ai rien, bien sûr, ça j'avais pas pris, mais j'avais pris des jeux. Mais... Et donc il y a une maman qui était là avec une petite dans le même box qui dit « Bah moi j'ai une compote si vous voulez ». Bon bah la compote il a vomi, voilà, une heure après, sur moi encore une fois.
Mais t'avais prévu ?
J'avais prévu, tout à fait. Et donc là, une journée assez longue dans ce box où donc, il fait des examens assez poussés, donc champ visuel pour voir s'il il perd pas de sa vision parce que... En général, ça peut arriver. Il fait d'autres examens, mais c'est assez long. Et puis arrive 22h. Et là, un seul parent doit rester. Donc Clément me dit bah, « Tu restes pas, toi. C'est pas possible. Tu rentres à la maison, tu vas dormir. » Dormir est un bien grand mot. Il me dit « Je t'appelle dès que j'ai quelque chose. » Et donc, je rentre. Et juste avant de partir, ils me disent bah, « Là, dans une heure ou deux, on a la salle d'examen qui se libère pour faire un ECG, pardon. Léon y va et puis voilà, on vous tient au courant. Donc, entre-temps, test Covid pour Léon parce qu'il passe en opération. Enfin, le truc affreux. Hein. Vraiment une journée atroce. Moi, je rentre et puis pas d'appel. Donc, je dors bien finalement. Mais enfin, je dors parce que je suis épuisée par ma journée. Lendemain matin, pas d'appel. Donc, je dis à Clément, je pars à 7h. Donc, le temps d'arriver jusqu'à Lille. Bon, bah, je mets presque une heure et demie. J'arrive et puis il me dit, monte au troisième étage. Je dis, ah tiens, ils ont monté d'un étage. Oh, sympa. On était passé deux urgences et zéro. On était allé au 1. Et là, on était au 3. Je dis, oh tiens. Puis je n'ai pas regardé dans l'ascenseur ce que c'était l'étage numéro 3. Et en fait, l'étage numéro 3, c'est neurochirurgie pédiatrique. Donc, je sors de l'ascenseur. Je pense que je l'ai lu, mais je n'ai pas associé les choses. Et puis là, j'arrive, je suis tout de suite accueillie. Ah, oh, vous êtes la maman de Léon. Ah, il vous attend, hein, il vous réclame depuis ce matin. Donc là, je souris, je suis contente, c'est qu'il va bien. Et là, je rentre dans la chambre et je vois la tête de Clément. Et là, je me dis, oh, là, il y a un truc. Et donc, il me regarde, il me dit, il y a une boule dans sa tête. Et là, je dis, bah, une boule, c'est-à-dire, enfin, une boule. Et en fait, on n'a pas eu le temps de finir la discussion parce que le neurochirurgien, en fait, passe tous les matins à 9h et il passe tous les soirs à 17h. Et on faisait partie des premières chambres, donc il rentre et là, il me sort tout un jargon que je ne comprends pas. Et puis, il me dit « Une opération est à programmer. Bonne journée. » Je vais pas te poser de questions. En fait, ils sont 5 internes, plus le neurochirurgien. Et je dis à Clément « Là, j'ai l'impression que le sol se dérobe, le ciel tombe. Je commence à pleurer, mais... vraiment beaucoup. Et Léon qui me regarde, il me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui dis « T'as une boule, mon chéri. Enfin, qu'est-ce que... Je sais pas quoi te dire d'autre, quoi. Enfin, c'était insensé. Enfin, ça n'arrive... Ça peut pas m'arriver à moi, en fait. Ça arrive dans les films, ça arrive... quelqu'un que je connais, qui connaît, mais pas à moi, c'est pas possible. Pas mon fils, pas lui. Et là, c'était...
Ils mettent des mots sur cette boule. Enfin, tu dis que là, ils utilisent tout un jargon. Est-ce qu'à un moment, on te dit...
C'est Clément qui a dit une boule. Et, en fait, non, ils disent tumeur. Ouais, voilà, c'est une tumeur. Une tumeur de 4 cm. Parce que du coup, on a la journée un peu en suspens. Où on ne comprend pas. Enfin, moi, je ne sais même plus ce qui se passe pendant cette journée. Et du soir, en fait, là, je pose des questions. Là ouais. Je suis un peu dans mode bulldozer. Là. Explique-moi ce qu'il y a dans la tête de mon fils. Enfin, là, je veux savoir. Et je suis un peu, je pense, un peu agressive aussi, mais... Enfin, je pense que la réaction, elle se comprend aussi, quoi. Donc, du soir, oui, on apprend que c'est une tumeur qui est placée au niveau pariétal gauche, donc ici en haut. Enfin, je te montre, du coup.
C'est en haut du crâne. Je vais faire l'audio description.
Donc, en haut du crâne, donc, elle est plutôt bien placée. Ouais. Super nouvelle. Donc, elle n'est pas prise entre plein de trucs du cerveau. Elle est vraiment à l'extérieur. Elle est assez grosse et c'est ça qui provoque les crises d'épilepsie. Donc, il faut l'enlever.
Ok.
Donc, une opération est programmée le plus vite possible. Et le plus vite possible, c'est lundi. On est mercredi.
Oui, c'est rapide.
Oui, c'est rapide.
Et en même temps, ils te disent si c'est malin, si c'est bénin. Non
tu peux ils pas savoir pas. Tant que tu l'as pas enlevé. Oui. Et du coup, quand ils l'enlèvent, ils la font partir en...
Biopsie ?
Oui. En anapath.
Ils vont analyser pour voir s'il y a des cellules cancéreuses.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça met à peu près 3 semaines, normalement. Donc, on passe la semaine aux urgences. Pas la semaine aux urgences, la semaine à l'hôpital. Mmh. Donc, en service de neurochirurgie pédiatrique. Donc, l'équipe est vraiment géniale. Malgré le Covid, franchement, on est vraiment bien accompagnés, bien accueillis. Bon, les clowns de l'espoir, j'ai eu un peu de mal le mercredi quand je suis arrivée. Ils ont voulu me faire rire. Moi, j'avais pas très envie. Léon, il était un peu petit, puis il était un peu dans les vapes, quoi. Ma mère, elle pleure.
Qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous avez réussi à peu près, quand vous avez eu des mots, à lui dire ce qui se passait, à lui expliquer avec ses mots. Enfin, il avait 2 ans, quoi. C'est tout petit encore.
Bah, le truc, c'est qu'en fait, il est dans la pièce quand le docteur y passe tous les jours. Donc, en fait, il entend tous les jours les mêmes mots, tumeur, stable, examen.
Et il comprend? Il pose des questions?
Bah non, à 2 ans, non. Il parlait pas beaucoup. Il avait quelques mots, mais... pas beaucoup, en fait. Donc, moi, j'ai demandé à ce qu'on nous ramène une poupée pour pouvoir faire les soins sur la poupée et ensuite pouvoir les faire sur Léon. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais vu au maternel et que je savais que passer par un objet transitionnel pouvait aider Léon. Il hurlait quand on devait lui faire des piqûres, il hurlait pour mettre le masque, enfin, il hurlait pour tout. Donc, on a demandé à avoir du matériel donné en fait pour pouvoir s'amuser l'après-midi à faire des piqûres à la poupée, à faire le masque. Enfin, c'est une situation auquel tu t'attends pas quand t'es maman, quoi. Mais en même temps, moi, ça me permettait aussi de lui montrer et de dédramatiser aussi les choses, en fait, les refaire après. Et parce qu'il en a fait des examens, il a refait des champs visuels, il a refait des EEG, il a refait des IRM, et donc l'IRM vraiment montrait la boule, quoi. Donc ils nous l'ont montré sur des photos. Lui aussi les a vus, elle était énorme, enfin 4 cm dans une petite tête, c'est énorme, donc vraiment, il fallait absolument l'enlever. Donc on a passé toute la semaine là-bas, et du dimanche, ils nous ont dit, vous avez une permission de sortie, vous pouvez aller chez vous la journée, pas la nuit. La nuit, il était branché, vraiment, parce que oui, c'est ça, quand... la nuit où moi j'étais à la maison et ils sont montés de 3 étages, en fait il a refait une 3e crise d'épilepsie en fait. Donc là il a été mis sous anti-épileptique, un médicament qu'on prescrit aux enfants de 4 ans à peu près, normalement, parce que c'est noté sur la boîte. Et donc nous à 2 ans il avait un traitement comme ça. Pour dire que vraiment c'était pas possible de faire autrement, quoi. Pour le protéger en fait, pour protéger son cerveau, il fallait absolument qu'il ait ça. Et ce traitement il l'a eu pendant 1 an après. Et donc... du dimanche, on va se balader à Lille, au zoo, qui était fermé. Mais voilà, on va manger dans une pizzeria comme si tout était normal et rien n'était normal. Les gens qui disent « Oh, il est mignon ce petit garçon, bah, c'est joli ton dessin. » Et moi, je me dis « Mais si vous saviez la détresse dans laquelle on est, enfin, c'était vraiment...
» T'arrives à t'entourer à ce moment-là, bon, là, on est période Covid, donc on met quand même dans le contexte. Mais est-ce que t'arrives à parler à des personnes?
Alors, moi, pas du tout. Moi... la manière dont j'ai réagi, c'était de me mettre dans ma bulle. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur de réexpliquer tout au téléphone. C'est trop dur d'entendre des gens pleurer quand tu leur annonces ça. Je l'ai annoncé à une personne de mon entourage proche et la personne s'est mise à pleurer. Et j'ai dû rassurer la personne. Et je me suis dit, oh, c'est le monde à l'envers. C'est moi là, qui ai besoin de soutien. C'est pas moi qui dois te soutenir. Donc là, j'ai coupé... j'ai vraiment gardé 3-4 personnes, dont une collègue qui savait très bien ce qui se passait, qui est dans le métier, donc on connaît un peu...
Mais c'est plus facile quand...
Oui, et puis c'est pas quelqu'un que je vais croiser tous les jours, c'est quelqu'un qui est un peu à distance parce que je suis en arrêt. C'est ça.
Il y a moins d'affect même avec ton fils, d'ailleurs.
Oui, oui, c'est ça. Même si elle était dévastée également, et on en a reparlé. Mais voilà, je me suis entourée vraiment des... Enfin, je me suis entourée de très peu de personnes parce que c'était trop dur pour moi d'en parler. À l'inverse, mon mari, c'était l'opposé de moi.
Ah ouais.
Lui, c'était j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de parler, j'ai besoin même de pas en parler, tout simplement. Donc moi, c'est rigolo parce que on a fait une nuit sur deux pendant toute la semaine. Moi, quand je rentrais, c'était je me mettais dans mon lit parce que je mangeais souvent. Enfin, je mangeais avec les nausées et tout ça. Je rentrais dans mon lit, je regardais une série pourrie sur Netflix et je m'endormais devant et je repartais le lendemain. Clément, c'était l'inverse. C'était je vais chez mon frère, je vais chez mes parents, je vais chez des copains, je vais chez mon parrain, enfin je vais n'importe où. Et je rentre tard, et je me couche tard, et voilà. Et j'ai besoin de faire que ma vie, elle continue, en fait. Je pense que c'était ça. Pardon. Donc, on a vraiment deux façons de faire totalement différentes. Et moi, je ne lui ai pas reproché d'être comme ça, et lui ne m'a pas reproché non plus. Mmh. Et quand je recevais des messages et que c'était trop compliqué pour moi de répondre, c'est lui qui répondait. Et il y en a auxquels je répondais volontiers, mais il y en a d'autres, non. Mmh. Donc, on s'est un peu... mis en mode je fonctionne à ma manière.
Mais c'est chouette.
Pour Léon.
Parce que vous avez été chacun attentif à vos propres besoins. Ouais, et aux besoins de l'autre aussi, du coup. Et c'est plutôt chouette.
Bah, je sais. En fait, on n'a jamais vraiment eu de coup dur dans la vie. Donc là, on s'est un peu découvert aussi. Et je suis extrêmement contente, si je peux dire ça comme ça. Mais que ce soit arrivé avec lui, parce qu'on s'est soutenus. On s'est soutenu l'un l'autre sans le vouloir, en fait, en étant tout à fait indépendant par nos réactions, mais en étant vraiment quand même très proche l'un l'autre, quoi. On passait toutes nos journées ensemble. Moi, du coup, je faisais la sieste l'après-midi avec Léon, parce qu'il faisait des siestes à 2 ans, donc il faut tout fermer. Moi, de toute façon, j'étais fatiguée. Lui partait faire un tour autour de l'hôpital. Et puis, le soir, on a trouvé notre croisière, notre rythme de croisière, pardon, comme ça. Ça a quand même duré du mercredi au vendredi de la semaine d'après. Donc, plus d'une semaine et demie.
Oui, parce qu'après l'opération, bien sûr, qu'il reste encore.
Oui, tout à fait. Donc, Donc, on a eu cette permission, on est rentré à la maison et ils nous ont quand même prévenu. Qui dit permission dit test Covid. Donc là, on s'est dit, est-ce qu'on sort pas? Et on s'est dit, il faut qu'il voit autre chose que ça, parce que là, ça commence à faire long, quoi. Donc, on est rentré un petit peu à la maison, il a vu son chien, il a vu son cousin. Moi, j'ai pleuré de le voir là, c'était... Je l'avais pas vu déjà depuis une semaine à la maison, la maison, elle était vide sans lui. Donc du coup, nous sommes retournés à l'hôpital le dimanche soir et l'opération était programmée le lundi après-midi. Donc elle a été décalée plusieurs fois. Mmh. Il devait être à jeun, c'était merveilleux de le faire patienter dans cette attente. Et puis il est parti en opération et tout de suite après, il part en réanimation. Mmh. Donc réanimation, à cette époque-là, c'est autant les Covid que les opérations.
D'accord.
Donc c'est un service...
Saturé.
Mais ce qui est cool dans l'histoire, c'est qu'on a récupéré l'interne qui a changé de service à ce moment-là. Et donc, il nous connaissait. Donc, il a été très, très gentil avec Clément. Il lui a donné un lit, à boire, un repas. Donc, moi, cette nuit-là, j'ai dormi à l'hôpital et Clément a dormi en réanimation avec Léon. Donc, on était tous à l'hôpital cette nuit-là. Et donc, du matin, j'ai été le relayer parce qu'il n'a pas du tout dormi de la nuit. Donc, on a récupéré Léon. J'ai beaucoup d'émotions. donc l'opération s'était très bien passée. Et donc on l'a récupéré du matin, donc avec un espèce de gros turban, des kilomètres de bande. Ouais. On aurait dit un fakir. donc dormir sur nous en réanimation. Et puis dans la journée, il est remonté. Et puis après, la journée s'est déroulée. Donc, il a remangé. Tout s'est super
allait bien
passé.
Oui, il allait bien. L'opération.
Il allait bien, sauf que 3 jours après, on nous avait dit, il peut peut-être un petit peu gonfler. On a dit, oh, bon, d'accord. Sauf que je pense que c'est Clément qui dormait là. Du matin, il s'est levé. Et en fait, quand tu ouvres le cerveau, tu as du liquide, en fait, qui... Comme quand tu as un bleu, tu sais, tu as une petite bosse de protection. Et en fait, il y avait du liquide qui était descendu dans tout son visage. Ah, et donc, on le reconnaissait même pas. Il était, mais j'ai une photo de lui, on dirait un enfant obèse, mais du coup, vraiment, il avait des toutes petits yeux, d'énormes joues, et c'était hyper impressionnant.
Heureusement qu'il t'avait prévenu.
Oui, il nous avait dit juste le front, là, c'était toute la tête, jusqu'au cou, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors, on se doutait bien que c'était ça, mais on a quand même appelé, parce que c'était vraiment très impressionnant, puis lui, du coup, il avait du mal à parler, il avait vraiment très gonflé, quoi, ou comme quand tu te fais... piqué par une abeille, tu gonfles,
ouais.
Donc là, c'était vraiment impressionnant. Donc ça a dégonflé quand même. C'est devenu normal. Et puis, on est sorti du vendredi. Donc, on était rentré du mercredi de la semaine avant. Et donc là, le chirurgien nous a dit, oh, je suis content de moi. Si, vous êtes content, moi aussi.
Je suis content de moi.
Oui, ils sont un peu...
Voilà.
C'est des médecins, c'est des professeurs, des grands...
j'entends.
Voilà. Il est fier de lui parce qu'il a réussi à tout enlever.
Et tant mieux, mais au lieu avant d'être content de toi, et c'est génial qu'il soit content, l'ego est quelque chose de très important. Mais quand tu deals avec de l'humain, c'est pas de toi que t'es content, c'est je suis content pour lui, je suis content pour vous, parce que j'ai tout enlevé.
Mais oui. Non, là, c'était pas ça.
Je me demande s'ils ont des cours d'empathie.
Non. Non, et j'en ai croisé d'autres. Je pense qu'ils devraient rajouter ce cours-là.
Ouais. Ouais. En neurochirurgie particulièrement. Je pense à Dr Shepherd.
Ah oui.
Je ne connais pas personnellement des neurochirurgiens, j'en sais rien. Mais ouais, non, ben bah, oui.
Ah non,
neurochirurgien, en tout cas, c'est vraiment, tu as l'impression que c'est le top de...
Ah oui.
Les
dieux.
Ouais, c'est ça, quoi.
Oui, bah heureusement qu'ils sont là. C'est oui, vrai que sans lui, voilà, il y aurait encore cette tumeur. Il serait peut-être plus là d'ailleurs, mais je veux dire, oui, un peu de tact, quoi. Un peu de douceur.
C'est d'abord, c'est des parents en plus.
Ouais.
D'un tout petit enfant, il se passe beaucoup de choses en peu de temps.
Ah bah oui.
T'as besoin de savoir, d'être rassuré. Et tant mieux. Enfin, je veux dire, t'es heureux toi aussi qu'il ait tout enlevé, le chirurgien. Mais t'es plus heureux que ton enfant n'ait plus rien que sa prouesse technique, tu vois.
Mais voilà, je suis contente moi aussi. Très bien, monsieur, très bien. Et il nous dit, puis en plus, franchement, son aspect. Ça a l'air, je crois que le terme c'est Bagrad.
Bagrad.
Ouais. Et donc on ne sait pas ce que c'est, donc on tape sur Google Bagrad. Ouais. Je pense que c'est ça, je peux me tromper. Hein. Mais en gros, ça veut dire qu'elle est bénigne, enfin elle n'est pas dangereuse. Donc nous, on retourne chez nous, on nous dit, on vous rappelle dans 3 semaines, vous aurez les résultats. Donc nous, c'est parenthèse enchantée, je suis en arrêt de travail. Clément, il est en transition parce qu'il quitte son boulot d'éduc pour faire une formation dans un autre domaine. Donc là, Covid. Confinement, donc là on est de nouveau à 3 à la maison, tout va bien. Moi je vois pas trop de monde, Clément il va un peu voir du monde. Enfin, là, on est vraiment, on fait son. C'était une super période, vraiment. Moi la grossesse, c'était dur, mais j'étais à la maison. Enfin, après ce que j'avais vécu, c'était top, enfin, vraiment voilà. Et puis 3 semaines passent, rien. Donc moi je commence à appeler, on n'a pas de nouvelles encore. 4 semaines passent, rien. 5 semaines passent, rien. 6 semaines passent, rien. Et là, je dis à Clément, on finit par se dire, bon, si c'est long comme ça, c'est qu'il n'y a rien, il nous aurait déjà appelé. Eh ben non, erreur.
C'est à cause du Covid, tu crois que c'était le plus long, non ?
Non, en fait, la tumeur apparemment est partie à Lyon.
Ah.
Ouais.
Ah oui.
Parce que c'est quelque chose de très rare, bien sûr.
D'accord.
Et c'est quelque chose de très, très, très invasif pour le cerveau. Et donc, on nous apprend que c'est un cancer pédiatrique. Donc, un ependymome anaplasique de grade 3.
Son bas grade.
Donc, ouais, non, pas du tout, pas du tout ce qu'il avait dit. Et en gros, c'est très grave ce qu'il a eu. C'est très rare, surtout pour un enfant de moins de 3 ans. Je suis très contente de le savoir. Et puis, on nous dit, demain, vous avez rendez-vous en radiothérapie. Donc au centre Oscar Lombré, donc pour traiter le cancer.
Okay.
Ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que on a été convoqué donc par ce fameux médecin qui était très content de lui. Et quand on arrive donc toujours Covid, je fais des pieds et des mains pour rentrer dans l'hôpital parce que je veux avoir la nouvelle en direct live. Donc je pleure au monsieur de la sécurité. Donc il dit allez-y madame, vous verrez bien là-bas ce qu'ils vous disent. Ok, je verrai bien. Et quand Clément dit à ce professeur, est-ce que ma femme peut venir avec nous? Il répond, oui, pour ce que je vais vous annoncer, il vaut mieux.
Ouch.
Moi, je ne l'ai pas entendu cette phrase. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais même...
Ouch.
Je ne suis même pas rentrée dans le cabinet. Et là, Clément, il m'a regardée.
Mais c'est tellement insensible.
Et puis en plus, il nous avait annoncé 6 semaines avant qu'il était content de lui et que c'était bénin. Et donc là, il nous annonce, non, en fait, ce n'est pas bénin, c'est grave. Vous allez devoir faire de la radiothérapie, peut-être de la chimio. Enfin, il nous annonce des trucs, et moi j'ai décollé là. J'avais décollé déjà une fois, mais j'étais redescendue quand il nous avait annoncé que c'était une tumeur. Et là, je redécolle. Là, c'est terminé, je suis plus là, quoi. Je me mets à pleurer, à crier. Enfin, vraiment, Léon qui comprend pas, encore une fois.
Ouais, il
pense, oui. Parce qu'il faut qu'il soit là, en fait. Ça le concerne, donc. Et donc, c'est insensé. Je crois que de l'après-midi même, on avait un rendez-vous donc, au col avec l'oncopédiatre. Qui nous reçoit.
Le col, c'est le centre Oscar Lombré.
Oui,
je traduis.
C'est le gros centre en fait pour traiter tous les cancers
à Lille, ouais.
Dont les cancers pédiatriques. Donc on est basculé là-bas. On rencontre une oncopédiatre qui est juste géniale, qu'on voit encore aujourd'hui, mais qui nous explique tout, qui répond à mes questions les plus farfelues. Enfin, farfelues, non, mais.
Mais tant mieux, t'as quelqu'un qui est à l'écoute
de
ta souffrance aussi à toi et qui t'explique avec des mots qui sont adaptés à ta situation de maman.
Ouais, c'est des mots durs.
Hein.
Ouais. C'est des mots très durs. Hein. Quand tu entends. Léon, radiothérapie, 6 semaines.
Est-ce qu'il vous parle de pronostic vital ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non. Non, parce qu'elle a été enlevée, parce que plus de crise d'épilepsie, parce qu'il va bien.
Et du coup, il faut quand même des bilans sanguins pour voir s'il y a des cellules cancéreuses ailleurs, non,
non. Oh, peut-être.
Je ne sais pas.
Okay. Franchement, je pense que tout avait été fait à l'hôpital, en fait, okay. avant l'opération. Il a fait des IRM, des ECG, des champs visuels. Enfin, il a fait plein de... Des examens vraiment, en plus, très, très durs pour un enfant. Enfin, déjà, pour nous, c'est vraiment pas agréable. Mais lui, il a été tellement courageux. Enfin,
ils sont résilients. Hein.
Il pleure sur le moment, puis après, deux minutes après, c'est tout. Enfin, par contre, il en a mangé des chocobons. Hein. Là, je me dis... Moi qui étais pas de sucre blanc, pas de chocolat avant 3 ans. Voilà, j'ai lâché l'affaire.
Écoute, hein, c'était pas de patrouille et chocobon.
Non, et alors on a réussi, parce qu'encore aujourd'hui, Léon n'a toujours pas vraiment d'écran. Mmh. On a réussi à faire tout ce parcours hospitalier sans écran. Et vraiment, je me tire mon chapeau quand même, parce que c'était pas évident. Par contre, ça, on a joué. Mais en même temps, je me serais pas vue regarder des épisodes de dessin animé avec lui pour faire passer la journée. Ouais. C'était déjà tellement difficile d'être là que même moi, si je jouais pas, ça allait être trop long, quoi. Donc, après, on a eu le droit de sortir, on prenait la poussette parce qu'il était petit, en fait. Donc,
oui, c'est
donc,
vrai. Ouais.
Donc, elle nous annonce ça. Elle nous dit, ben là, on est le 20 novembre. Donc, dès le 4 décembre, radiothérapie tous les matins au centre Oscar Lambret jusque début janvier.
Ok. Wow,
même intense. Le jour de Noël, même voilà, pas de pause. Donc c'est quelque chose qui dure. Donc on est emmené là-bas, on rencontre un radiothérapeute que je n'aime pas du tout, mais qui n'est plus le mien, donc c'est pas grave. Enfin, qui n'est plus celui de Léon, c'est pas grave. Pareil, en fait, ils nous ont annoncé qu'il allait perdre peut-être ses cheveux.
Ok.
Alors il fait pas de chimiothérapie, donc c'est pas la tête intégrale, mais par contre c'est la zone qui est traitée. En fait, le bulbe est complètement calciné.
Oui.
Donc, soit il repousse pas, mais il y a quand même de grandes chances qu'il repousse pas. Et moi, j'ai posé la question, je dis, oh, bah, en rigolant, je dis, oh, bah, il fera des implants en Turquie, enfin, j'en sais rien, quand il sera grand. Ah ben non, madame, ça marchera pas. Puis de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est pas ça qui est important aujourd'hui. Ah,
bon. Tu vois, tu voulais juste détendre un peu l'atmosphère.
Ouais, et puis moi, ça, déjà lourd, ça me tient à cœur, c'est un garçon, il a les cheveux, il a les cheveux longs. Enfin, pas si longs que ça, mais... Du coup, ça se voit chez un garçon. Chez une fille, on arrive encore à cacher, mais chez un garçon, ça se voit quand même beaucoup. Donc moi, ça m'inquiétait quand même. Enfin, la tumeur, elle n'est pas visible. Ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas visible, mais à l'extérieur, on voit qu'il a eu quelque chose. Ouais. Donc moi, c'était vraiment une question que je posais. Vraiment, peut-être futile pour lui,
oui,
parce que c'était
pas... important pour toi.
Mais pour moi, c'était important. Donc moi, je l'ai quand même posé. Bon, je me suis fait recevoir. Et puis, il a fini par me dire, vous savez, votre enfant, il ne sera pas président de la République. Et je dis, ou ingénieur, je sais pas. Ouais, il m'a. Enfin, parce que je parlais de déficience intellectuelle, je demandais s'il allait avoir des séquelles en fait, parce que moi je travaille avec des enfants, voilà, où je sais que ça peut basculer comme ça. Et il me dit, oh, il sera pas ingénieur ou président. Et alors
Mais c'est horrible. En fait, je suis outrée.
Moi aussi.
Parce que c'est pas. À la limite, c'est un cas isolé, tu vois, une personne qui à un moment te reçoit mal, mais toi, c'est quand même quelque chose de répétitif, donc c'est quelque... tu vois quand même, c'est symptomatique du manque d'empathie dans certains personnels de santé. C'est... Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'explication, je veux dire, soit ils n'ont pas d'enfants ou quoi, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais... Ou pas, parce qu'en fait, en vrai, ça ne veut rien dire, en fait. Et puis, tu n'as pas besoin d'avoir des enfants pour être empathique.
Non,
fait.
Je pense
juste
pas.
Juste parce que ce n'est pas lié. Mais je suis vraiment... vraiment, c'est quelque chose qui me sidère dans ton discours, en fait, de à quel point ce que tu dis et tes inquiétudes ne sont pas entendues et ne sont pas reçues, quoi.
Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est souvent des personnes qui ont fait beaucoup d'études, des personnes qui ont des fonctions quand même assez importantes. Enfin, radiothérapeute, c'est pas rien, quoi. Professeur, neurochirurgien, c'est pas rien non plus. C'est, effectivement, je pense qu'il y a l'ego qui rentre en jeu, parce que c'est des personnes sur qui, sans eux, voilà...
Après, est-ce qu'ils sont pas aussi blindés ? Parce qu'ils ont pas le choix ? Parce qu'au final, ils voient quand même... Toi, tu le vois une fois, mais des mamans comme toi, il a dû en voir beaucoup. Aussi, est-ce qu'ils se blindent pas, tu vois, de...
Je trouve ça dommage.
Oui.
Moi, dans mon travail, je rencontre parfois 5-6 familles à la suite. Heureusement que je suis pas comme lui, quoi. Parce qu'en fait, on a le droit d'être considéré, on a le droit d'être accueilli. Non, j'entends bien ce que tu dis, mais on a le droit d'être accueilli, on a le droit d'être considéré, on a le droit d'être entendu. Et c'est affreux. Enfin, quand on nous dit ça, on sait même pas quoi répondre. On se prend ça en pleine tête, on se dit, mais... Enfin, tu m'as dit, si t'as une question, pose-la, bah, je la pose. Enfin,
Oui, et puis on voit bien que, comme tu en parles encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'a marqué.
Ah, oui, oui.
C'est quelque chose que t'oublies pas, c'est pas juste une anecdote dans tout ce qui a été horrible de cette période-là, en fait.
Ah non, ça rajoute encore un peu de choses...
Donc ça reste, c'est ça je veux dire, c'est ça reste chez les patients et les accompagnants, en fait.
Ça restera toujours, je pense que ça fait partie de l'histoire. Et ouais, ça fait partie de l'histoire.
Donc c'est important.
Oui, c'est important pour moi, oui. Après, voilà, comme je dis, l'oncopédiatre qu'on voit encore aujourd'hui, elle est vraiment très très gentille, très très patiente. En plus, elle nous a reçus la première fois, j'avais pas tant de questions que ça, parce que j'étais encore sous le choc. Et finalement, même là, quand je lui pose encore des questions, elle est très ouverte. Parfois, elle prend plus de temps, parfois moins, mais la plupart du temps, elle est vraiment très à l'écoute, quoi. Donc, c'est vraiment agréable de tomber sur des gens comme ça, en fait. Après, j'ai envie de dire, c'est une femme. Les autres, c'est deux hommes. Est-ce que... je sais pas.
Franchement, je pense pas que... Enfin... Peut-être que ça joue. En fait, je crois qu'on n'aura pas la réponse.
Non, non, non. Ah non, non, non. Puis je veux pas de réponse. De toute façon, c'est fait. Et puis j'ai plus affaire à eux de toute façon. Mais enfin, je sais que ça peut être dur. Ça peut être dur à entendre. Ça peut être dur à encaisser. Et ça ajoute encore plus de difficultés à ce moment qui est déjà difficile, en fait.
Ouais, carrément.
Et moi, j'ai besoin de le dire aussi. Et j'en ai parlé aussi en thérapie parce que j'avais besoin de le sortir, quoi. Enfin, c'est des violences.
C'est pas juste.
Bah non. Mmh. C'est pas dirigé vers Léon, donc heureusement. Mais c'est dirigé vers les accompagnants et c'est dur quand même, quoi.
Et puis, en fait, quand c'est ton enfant et quand ils sont si petits, en fait, c'est pas à eux que tu t'adresses. Enfin, tu t'adresses à eux vraiment. Oui, aussi. Mais c'est tout un ensemble. C'est pas pareil que quand tu soignes un patient adulte ou...
Oui, oui.
C'est pas du tout la même chose.
Non, c'est pas la même chose.
Et ce qu'ils disent pas... En fait, et peut-être que c'est ça la différence. C'est que quand tu traites un adulte qui vit la maladie, tu vas peut-être avoir plus d'empathie parce que c'est lui qui le vit. Mmh. Alors que quand t'es l'accompagnant d'un enfant malade, on va peut-être être moins... précautionneux parce que c'est pas toi qui es malade, tu vois.
Non, c'est sûr.
Mais en même temps,
Ouais, non, mais tu vois, t'as peut-être raison, parce qu'on se dit que l'enfant va pas comprendre. Enfin, Léon, il a vécu tout ce que moi, j'ai vécu, en fait.
Bah, oui.
Et Augustine a vécu aussi tout ce que j'ai vécu.
Non, mais alors, attends, tu anticipes mes questions, ça n'aura pas du tout.
Pardon.
Donc, la radiothérapie se passe.
Oui, la radiothérapie se passe, très bien. Donc là, il en a bouffé les chocobons, je dis bouffé, parce que vraiment, ils n'hésitent pas à en donner les manips là-bas. Mais super, enfin vraiment, moi avec mon gros ventre, parce que ça commençait à se voir quand même. Et puis, ils faisaient des checks au mec de la sécurité. Enfin, vraiment.
Il était chez lui.
Ouais, il était chez lui, le mec. Enfin, vraiment, il courait dans les couloirs. Enfin, il était chez lui. Et heureusement, enfin, ça a apporté un peu de douceur aussi à tout ça. Et puis la radiothérapie se passe. Et donc, il y a quelques contrôles immédiats, puis après, plus rien. Et on nous dit, bon, ben voilà, c'est tout, c'est fini. Donc, à peu près mi-février, ben voilà, allez, bonne journée. On se revoit dans 3 mois. Donc, on se revoit en juin.
Et quoi, il est guéri ?
Il est guéri, il est en rémission. Il n'y a plus rien du tout, parce que dernière IRM, il n'y avait plus du tout de cellules douteuses. Par contre, la radiothérapie, ils nous ont bien expliqué que ça avait bien irradié tout le cerveau, donc à différentes échelles, mais en tout cas, la première partie, donc le pariétal gauche, il y a eu une grosse partie qui a été endommagée. Enfin, endommagée, je ne sais pas comment on dit, grillée, enfin, je ne sais pas, traitée, irradiée.
Ouais,
voilà, on va dire irradiée, c'est bien. Et le reste a quand même eu des radiations. Donc, possibilité de conséquences quand il sera plus grand. On nous a dit probable fatigue cognitive, donc pour l'école, et peut-être dans les apprentissages. Mais donc là, il est en grande section, donc pour l'instant...
Pas... Non, pour l'instant, tu vois pas...
Oh non, pas du tout. Puis alors attention, moi qui suis quand même dans le métier, le pauvre, s'il a quelque chose, je suis déjà au taquet pour monter un dossier. Donc, non, je fais le point régulier avec l'instit, je le stimule beaucoup. On nous a dit de toute façon, il faut qu'il fasse beaucoup de motricité pour pas qu'il ait de retard, beaucoup de stimulation. Donc on a lu énormément de livres, il a parlé très bien, très tôt, beaucoup de vocabulaire. Enfin vraiment, voilà, on a mis le paquet.
Ok,
voilà.
Cool.
Donc il est au top.
Bon. Quand même, on va l'aborder ce sujet, c'est que pendant ce temps-là, t'as une petite fille qui grandit à l'intérieur de toi.
Oui.
Comment tu vis cette grossesse, toi ? Est-ce que t'arrives à l'investir ?
Pas du tout, pas du tout. À l'hôpital, ben voilà, je devais me cacher pour manger, parce que Léon devait être à jeun et moi je devais manger. Donc il y a des fois où je vomissais parce que c'était pas possible. Enfin, donc ça a été très très difficile sur les débuts. Et puis j'étais beaucoup malade, donc finalement, elle me montrait quand même bien qu'elle était là. On n'avait pas demandé le sexe, donc... c'était un bébé, voilà. Moi, je me suis dit, bon, de toute façon, surprise, hein, ça pourrait nous faire que du bien. Mais moi, je savais que c'était une fille. J'avais l'intuition que c'était une fille. Et puis, aux alentours du mois de décembre, avant qu'il commence sa radiothérapie, j'ai dit à Clément, là, j'arrive pas, quoi.
Est-ce que
Question. Ça peut avoir des conséquences, la radiothérapie de ton fils sur ton bébé à toi ?
Non.
Non.
J'avais interdiction de rentrer dans la salle. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des examens où on injecte un produit et les enfants ne peuvent pas être en contact avec la personne. Ça, j'ai déjà entendu. Mais non, là, ce n'était pas du tout le cas. C'était vraiment, je n'avais pas le droit de rentrer dans la salle. Mais en même temps, personne n'avait le droit de rentrer dans la salle. Donc, il n'y avait pas de souci. Donc, non, j'accompagnais jusqu'à la porte, je l'installais. Il mettait son masque de fer, là. Et puis, on l'accrochait, parce qu'il faut quand même savoir qu'il est immobilisé. Et donc, là, il y en a eu des hurlements. Mais il n'y a pas de conséquences pour Augustine. Et donc, au mois de décembre, je dis à Clément, il faut que je fasse quelque chose. Et je me sens pas enceinte. Enfin, je suis là, je suis malade, mais je ne suis pas connectée, quoi. Mmh. Et cette deuxième grossesse, en fait, comme je ne l'avais pas bien vécue pour Léon, je m'étais dit, ah là, attention, allaitement, ça. Je m'étais dit, je vais faire de l'autonomie.
Tu veux tout faire.
Je voulais essayer, en fait. Je m'étais renseignée après. Ouais. Je me suis dit, bon, la deuxième, c'est bon, je suis au taquet, je connais tout. J'ai écouté mes petits podcasts, regardé la maison des maternelles, je suis au taquet. Et en fait, pas du tout, j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc, j'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme que j'avais pour Léon. Elle a été exceptionnelle. Je la vois encore et je l'en remercie. Elle m'a dit, oh là 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 là, mais Camille, on va se voir très souvent. Je vais même faire des rendez-vous en plus. Souvent, ils font des rendez-vous pour quand il y a des grossesses avec des pathologies.
Ouais.
Elle peut déclencher des rendez-vous en plus. Là, elle l'a fait pour moi. Enfin, elle m'a dit, non, là, on se voit à partir du moment où la radiothérapie est terminée, on se voit toutes les deux semaines. Mmh. Tu vas venir à la piscine comme tu faisais avant. On va faire le yoga ensemble. On va faire tout. Ouais. Mais je devais attendre la radiothérapie, enfin, voilà, parce qu'elle me dit ça va être trop pour toi. Il faut aussi que tu te reposes, parce que c'est vrai que faire la route de chez moi jusqu'à Lille, aller-retour, pour seulement 45 minutes, avec les bouchons et tout, c'est pas terrible. Voilà. Ouais. Donc il y a Clément qui en faisait une ou deux dans la semaine, et moi je faisais le reste, mais c'était pas terrible. Quoi. Donc la plupart du temps, c'est moi qui accompagnais, et c'est vrai que c'était fatigant. Donc à partir du mois de février, je l'ai vue toutes les deux semaines, et j'ai tant bien que mal investi la grossesse. Après, j'ai remis Léon chez la nounou pour essayer d'avoir comme une vie de maman qui attend un bébé classique. Mmh. On nous avait dit qu'il fallait aussi qu'il soit socialisé avant de rentrer à l'école. Donc,
Il était entre guillemets en rémission, guéri.
Il était en pleine forme.
C'était l'heure de retourner à la vie, mais c'est pas si simple quand tu as vécu 6 mois comme ça en apnée.
Ah ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, moi, je m'étais dit, avant l'école, il faut quand même qu'il retourne un petit peu chez la nounou, ça va faire une transition. Il avait, une partie de cheveux en moins, donc j'avais dit, il faut que ça repose. Enfin bref, c'était trop... Voilà, il fallait que je lâche un peu le truc et me dise, il faut qu'il soit vu par les autres. Enfin, il faut savoir quand même que Léon, il porte une casquette depuis qu'il a 2 ans, âge 24 presque. il a plein de modèles, parce que du coup, j'essaye de cacher, de cacher ça. Et récemment, je lui ai dit pourquoi il y avait une casquette. Il me dit, bon, on m'en fout, j'aime bien de toute façon. Très bien.
Mais oui, puis en fait, c'est ça, que pour toi, c'était important, mais ça tombe en fait pour lui, ça n'allait pas...
Oui, il s'en fout, lui. Il s'en fout, puis c'est derrière sa tête. Mais en tout cas, je lui ai expliqué pourquoi j'insistais autant pour ça. Mais donc, bref, revenons sur Augustine. J'ai investi tant bien que mal la grossesse. Et puis, il faut savoir que quelques mois après, j'ai appris, lors d'une discussion avec des amis et Clément, que Clément, en fait, ça m'a fait très, très mal au cœur, mais je comprends. Il a dit, je ne pensais pas qu'elle allait s'accrocher en fait, à Augustine. Mmh. Vraiment, je ne pensais pas que ça allait tenir comme grossesse.
Oui, avec tout ce qui s'était passé.
Et en fait, je me suis dit, mais tu penses que je ne suis pas capable. Enfin,
Tu l'as pris pour toi.
Ouais, je l'ai pris pour moi. Je me suis dit, en fait, j'étais tellement mal parce que c'est vrai que je pleurais beaucoup. J'étais très fatiguée. Enfin, j'étais vraiment au plus mal, quoi. Au plus mal que tu peux être. Enfin, vraiment, je ne m'étais jamais sentie comme ça. Donc, je découvrais toutes des sensations que je ne connaissais pas. Et j'ai vraiment eu du mal à remonter la pente. Du coup, au détour d'une discussion, il dit « je pensais pas qu'elle allait tenir ». Et là, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc et en même temps, je me suis dit « effectivement, j'étais pas du tout accueillante pour elle ».
Ouais, mais elle voulait être là déjà,
elle
faisait déjà partie de cette famille. Et au-delà de ça, dire ça, c'est pas non plus juste pour les personnes qui perdent des bébés.
Oui.
Parce que c'est de la faute de personne.
Ah non, tout à fait.
Pas toi non plus qui n'étais pas en capacité si c'était passé quoi que ce soit. C'est pas, voilà.
Non, mais... c'était dans le sens de dire que le contexte était tellement compliqué que peut-être que, tu vois, mon corps aurait dit, stop, là, je me préserve.
Et pourtant, il y a aussi des bébés qui s'accrochent dans des circonstances qu'on n'imagine pas. Il y a des dénis de grossesse, des bébés qui vivent
on sait pas
tout ce qui est déconseillé pour les femmes enceintes. Mais...
qui vivent quand même
tu vois, donc malheureusement, il n'y a pas de règle pour ça.
Non. Mais ça c'est vrai que ça m'a touchée, en fait, qu'il me dise ça, parce que... Enfin, il ne me l'a pas dit, en plus. Il a dit, lors d'une discussion, ça m'a touchée parce que je me suis dit, effectivement, je pense que j'étais dans un état de détresse émotionnelle dans lesquelles je ne me rendais pas compte, en fait. Et j'ai probablement fait du mal à Augustine, à moi aussi. Mais de toute façon, j'ai réagi comme je devais réagir. Non, mais
écoute, ouais, c'est ça, c'est la circonstance.
C'est comme ça, j'ai fait comme je pouvais. Ouais. Et finalement, on est là toutes les deux, tous les trois, tous les quatre. Et tout va bien. Mais effectivement, à la suite de ça, justement, à sa naissance, ça a été très compliqué, quoi. Moi... le jour où j'ai dû accoucher, j'avais dit à la maternité, moi je reste pas plus que 2 jours, j'ai un enfant qui est malade, faux, il était en pleine santé, mais voilà.
T'étais restée dans cet état d'esprit.
Ouais, parce qu'il devait faire un examen pas très longtemps après, donc tu vois, tu sais jamais vraiment quand est-ce qu'il est plus malade, et puis t'as été portée par un corps médical, pas toujours bienveillant, mais en tout cas t'as été portée par un corps médical. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien, en février j'ai été lâchée dans la nature.
Ouais, t'es comprends pas trop ce qui se passe, quoi.
Je peux plus parler à personne. Alors j'ai ma sage-femme, mais je suis quand même en arrêt de travail. On est quand même en Covid. Enfin, du coup, je me retrouve un peu isolée, mais en même temps, c'est moi qui ai voulu l'être. Alors du coup, je ressens des choses qui sont totalement paradoxales, et en même temps, je me dis bon bah voilà. Donc
un beau petit terrain pour une petite dépression postpartum. Ah
bah, ouais, bah oui, j'avais commencé. Hein. Ouais. Et j'ai refusé de me faire suivre. J'ai refusé de voir des gens. J'ai vu la psychologue de l'hôpital, sauf que cette psychologue, en fait, c'est une ancienne collègue à moi. Enfin, une personne qui a travaillé dans un autre service en même temps, enfin, qui était là où je travaillais.
Délicat,
donc je me dis, je suis où ici, en fait, je suis au travail ou je suis à l'hôpital avec mon fils, je sais qui je suis. Voilà.
Ouais.
Donc du coup, tant bien que mal, j'arrive à cet accouchement. Hein, et l'accouchement se passe bien. Sauf que comme j'ai rompu la poche des os et que j'y suis allée trop tard, il y avait une infection.
D'accord.
Un truc comme ça, donc elle a eu des antibiotiques. Et antibiotiques, c'est 5 jours.
Je voulais pas tout de suite, non.
Mais je me dis, est-ce que c'est un hasard? Je crois pas.
Non, pendant ces 5 jours, avec cette petite fille.
Voilà. Moi, je le vois comme ça, en fait. Je me dis que je voulais tellement rentrer que j'ai pas pu. Donc j'ai dû rester 5 jours à l'hôpital. Ça a été très long. De ne pas voir Léon, même s'il venait me voir tous les jours. Il n'est pas venu tous les jours, mais c'était très long. Très, très long d'avoir été autant avec lui, même s'il était chez la nounou, mais matin, soir. Mmh. Et plus rien, avec un bébé que je ne connais pas, où je n'ai pas réussi vraiment à connecter. Enfin, c'était trop difficile. J'avais envie d'être à la maison, mais aussi ici, mais pas vraiment. Mais, enfin, beaucoup d'ambivalence, en fait, dans ce que je pouvais ressentir, et ça a été très compliqué.
Mmh.
J'ai forcé pour l'allaitement. Elle ne prenait pas assez de poids. Donc j'ai forcé jusqu'en juillet, puis on m'a dit stop Camille, t'arrêtes là. Et à partir de juillet, en fait, c'est là où je suis tombée, en fait. Je suis tombée en dépression, burn-out, on l'appelle comme on veut, mais en gros, mon corps a... De toute façon, l'allaitement n'arrivait pas à se mettre en place parce que mon corps, en fait, il n'y avait plus d'énergie. Il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus rien, il avait tout donné pour la grossesse et puis pour Léon. Et là, ces 9 mois étaient... Parce qu'en fait, ça a duré 9 mois, donc... c'était stop. Et donc, à la suite de ça, j'ai vu... j'ai sombré, en fait, dans une dépression assez importante. Mais en luttant, toujours, bien sûr. Parce que je lutte beaucoup. J'essaye toujours de remonter, mais sans descendre tout en bas. Donc, tu remontes jamais vraiment. Hein. Et puis, donc en septembre, je vais reprendre le travail. Donc oui, j'ai vu un médecin du travail pour essayer d'aménager mon temps de travail. Et je suis tombée sur quelqu'un, encore une fois, d'odieux. J'ai vraiment pas de chance, je crois. Enfin, j'ai vraiment pas de... Je tombe pas sur les bons interlocuteurs, qui m'a dit que ce que je ressentais, c'était pas vraiment normal et qu'il fallait que je change de travail si j'étais aussi affectée par ça, quoi.
Parce que le problème était trop... C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit.
C'est quoi ton
travail,
Camille ?
C'est compliqué à expliquer comme histoire.
C'est quoi ton travail, Camille ?
Je suis éducatrice spécialisée dans un service qui accompagne des enfants qui potentiellement peuvent avoir des tumeurs cérébrales. Et qui ont... Ouais. Donc, c'est très compliqué parce que c'est des enfants qui attendent des examens, comme Léon, qui ont les mêmes professeurs que je peux croiser à l'hôpital. D'ailleurs, j'en ai croisé un une fois. Enfin... En fait, il n'y a pas de frontière entre mon perso et mon boulot. Mmh. Donc, c'est en ça que j'avais peur de reprendre le travail et c'est en ça que j'aurais voulu reprendre en mi-temps thérapeutique pour faire une petite transition. Sauf que, apparemment, j'étais plus faite pour ce travail-là, d'après ce docteur. Et donc, j'ai claqué la porte. Enfin, j'ai rien dit, je suis partie. Je me suis laissée faire parce que je n'avais pas la force de lutter. Et puis, mon médecin m'a mis en arrêt. Je pleurais tellement que mon médecin m'a mis en arrêt. Il m'a dit « Maintenant, t'as fait 2 enfants. Ils sont là, ils sont en bonne santé. » Même si j'avais toujours un doute pour Léon, que ça revienne, parce que c'est possible que ça revienne. Du coup, il m'a dit « Là, c'est tout, tu te soignes. » Donc, il m'a donné le numéro de quelqu'un. Donc, je suis allée le voir. Donc de septembre à janvier, j'ai fait une petite thérapie brève. Et puis en février, j'ai repris le travail, pensant que j'étais une championne, que ça y est, je pouvais reprendre. En fait, ce psychologue, il a surtout essayé de me convaincre que j'étais en burn-out, en fait. Les séances, elles servaient à me dire, mais regardez, vous n'êtes pas capable, regardez, vous n'êtes pas capable. Mais en fait, on n'a jamais traité vraiment le fond.
Vous n'avez pas soigné.
Non, on n'a jamais traité le fond.
Parce que tu n'arrivais déjà pas à voir le problème, donc c'est compliqué de... Tu ne peux pas soigner quelque chose que tu ne vois pas.
Je ne m'étais pas du tout ouverte. Peut-être que ce n'était pas le bon professionnel, ou peut-être que ce n'était juste pas le
bon moment. Oui, voilà. Bien sûr.
Donc j'ai repris le travail en mi-temps, et puis tout s'est bien passé, hein, voilà. Donc ça pendant un an, enfin en mi-temps thérapeutique, puis après j'ai repris à temps plein en septembre. Donc voilà, tout allait bien. Et puis en mai dernier, du coup, donc Léon fait ses examens tous les 3 mois. Et puis là, comme ça faisait 2 ans, on était passé à tous les 6 mois. Et donc en mai dernier, je vais, mais franchement, d'une confiance absolue à cet examen.
Presque, tu vas juste prendre des nouvelles, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça va, c'est vrai que ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Vous avez accouché, ah oh, tiens, oh. Voilà, ouais. Comme à la maison, quoi, parce que je connais bien le service maintenant. Sauf qu'en fait, pas du tout. Là, l'onco-pédiatre me dit qu'en fait, il y a des kystes qui poussent et qu'en fait, ils continuent de pousser et qu'ils doivent s'arrêter de pousser. C'est pas normal que ça pousse encore. En fait, comme Léon a un trou dans son cerveau, c'est rempli de liquide, mais en fait, le cerveau, il a bien compris qu'il manquait un truc. Donc, il produit des kystes.
D'accord.
Et donc, ces kystes-là, en fait, sont censés s'arrêter de pousser, mais ils continuent de pousser. Donc elle, ça l'inquiète. Et donc moi,
ça t'inquiète.
Oh bah c'est plus que ça m'inquiète.
Alors là, j'ai fait péter le bouchon de ce qui,
ce qui était déjà bien déjà à la surface. Parce que du coup, quelques mois avant, j'avais repris un suivi psychologique parce que je sentais que ça n'allait pas. Mmh. Je m'étais dit, Léon c'est bon, tous les 6 mois, Augustine ça va, elle mange, ça y est, on est parti. Clément son boulot ça va, moi ça va. Allez, je vais penser à moi. Je m'étais dit, ça y est, c'est le moment. Je pars en thérapie pour faire de l'EMDR, etc. Et sauf qu'en fait, avant mai, elle m'avait dit « Je sens quand même que là, vous tirez un peu sur la corde, il va falloir penser à s'arrêter. Non, je ne m'arrêterai pas, madame. » Et ben voilà. En mai, du coup, cette annonce-là, en fait, elle m'a fait partir une troisième fois dans l'au-delà, en état de sidération. Et là, j'étais complètement consciente de toutes les manifestations corporelles parce que je n'étais pas enceinte. Ah. Donc, ce n'était pas des mots qui s'ajoutent à des mots, des nausées, etc. Ouais. Parce qu'en fait, peut-être que les nausées, ce n'était pas dû à la grossesse, c'était peut-être... Quand on a une nouvelle comme ça, un choc, parfois ça peut arriver d'avoir ça. Et là, j'étais vraiment consciente de tout ce qui m'arrivait. Cet état de flottement, de sommeil, de fatigue, vraiment. Et là, mon médecin, pareil, il me dit « Stop Camille, on va s'arrêter, on va faire une pause. » Et puis, du coup, la pause a duré 6 mois, le temps que les examens... Enfin non, 4 mois. 4 mois et demi. Le temps qu'on refasse des nouveaux examens, parce que du coup, la suite, c'était on ne peut pas faire quelque chose maintenant. On refait un examen dans 3 mois, ce qui tombait pendant l'été, donc j'ai dit non, on va en vacances quand même un peu. Donc on l'a fait en septembre, et donc ça faisait à peu près 3 mois et demi, 4 mois, pour vérifier si c'était bien des kystes, si ça poussait. Ouais. Si ça continue de pousser, on opère, on enlève, on analyse, on voit ce que c'est.
Ça recommence.
Voilà, ça recommence. Et donc, cette attente, elle a été terrible, sauf que j'étais accompagnée.
Ça change tout.
Ouais. Ah ouais, carrément. D'une thérapeute que je vois encore aujourd'hui, mais je remercie... on a tendance à dire que c'est le thérapeute, mais non, c'est moi qui étais à ce moment-là prête, à ce moment-là décidée à... Et,
oui, elle est juste là pour tenir la main, mais c'est toi qui fais le travail.
Tout à fait. Donc du coup, j'ai vécu les choses d'une autre manière. J'ai beaucoup écrit. Donc c'était quelque chose qu'elle m'avait demandé de faire et que je n'avais pas voulu. Mais finalement, j'ai essayé. Et ça a bien marché. J'ai écrit beaucoup. Et donc ça allait mieux en septembre. En plus, les nouvelles étaient très bonnes, puisque du coup, pas de suite, les kystes ne poussent plus. On repasse à un suivi tous les 6 mois. Donc là, tout le monde me dit, tu vois, t'as stressé pour rien.
Mon Dieu.
Tu vois, je t'avais dit, il n'y avait rien.
Arrêtons de juger les émotions des gens. Arrêtons.
Oui, et puis en fait, c'est juste que cet épisode-là a réouvert quelque chose qui n'était pas fermé. Donc,
juste, en fait, quoi qu'il, ton inquiétude, elle est légitime, fait. Peu importe.
Oui,
c'est pas parce qu'à la fin, il n'y a rien. Et quoi, si ça c'était pas terminé comme ça, t'as dit « Ah t'as bien fait de t'inquiéter, dis donc.
Ouais. » T'avais raison, hein.
Ouais, c'est con. c'est très con.
Mais oui, les gens
réjouir juste besoin, simplement de la bonne nouvelle de « en fait, ça va. » Dire « Ah tu vois ce que t'as vécu là, t'aurais pu t'en passer, ça servait à rien. » En fait,
déjà, ça sert à rien, genre de phrase.
Bah, enfin, arrêtons. Ça fait pas avancer. Hein.
Ça change rien. Juste, on prend les gens dans les bras, on est content. Ouais, c'est ça. On est content et tant mieux. En fait, oui, on a été inquiet parce que c'est naturel d'être inquiet. Mmh. Quand on dit que ton enfant a peut-être un truc qu'il a en plus déjà vécu, que c'est un trauma qui est déjà énorme dans ta vie. Ben attends, pardon, mais tu peux pas, c'est comme dire à quelqu'un qui veut tomber enceinte et que ça fait 3 ans qu'il était, de pas y penser. Enfin, juste arrêtons.
Non, c'est pas possible.
C'est pas possible, tu peux pas faire ça.
Non.
C'est pas possible.
Non, et c'est très violent, en fait. Mm. Mais après, encore une fois, il faut savoir s'entourer des gens qui nous font du bien aussi. Mm. Et quand d'autres personnes nous disent ces choses-là, faut pas en tenir compte. Mais c'est vrai que c'est pas facile.
Non, c'est dur.
C'est dur. Mais c'est dur, mais c'était dur à l'époque. Mais maintenant, tu vois, j'ai toute une manière de voir les choses totalement différente, parce que le fait que Léon n'ait rien, bon, on m'a dit tu reprends le travail. Moi j'ai dit non, c'est pas parce que Léon va bien que moi je vais bien.
Oui.
Sauf que point de vue financier, etc., l'arrêt, tout ça, bon, j'ai dû reprendre en mi-temps thérapeutique. Et comme tout allait bien, bah, encore une fois, je me suis autorisée à aller mal et à pouvoir me soigner, en fait. Et vraiment, de mai à septembre, ça a été vraiment intense parce que j'étais accompagnée bien, j'ai su faire un travail de fond. Et de septembre à janvier, enfin là encore maintenant, mais plutôt vers décembre, j'ai vraiment travaillé sur moi, en fait. Chose que j'avais pas pu faire depuis tout ce temps. Mmh. Et aujourd'hui, je suis plus du tout la même. Même aujourd'hui, si on me dit ça, ben, j'aurai la réponse, en fait.
Ouais.
C'est pas que je me laisse faire ou pas, mais c'est que je...
Ben, ça m'atteint pas, quoi. T'as appris à avoir les clés.
Ouais, c'est ça. Vraiment, ouais. C'est totalement différent. Je suis plus du tout la même, en fait. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être sortie de cette spirale, ce tourbillon dans lequel j'étais. Parce que j'ai vraiment été suivie, je me suis écoutée, en fait. Mmh. J'ai vraiment accepté d'aller mal et de le dire. Mmh. Ça va pas. Hein. Quand les gens, ils entendent « ça va, Camille ?»« Bah non, pas trop. »
Oh. Merde.
Ah, toi qui es toujours joyeuse, c'est...
Ouais.
Ah ouais.
Mais c'est pas que t'es toujours joyeuse, c'est que tu réponds toujours oui à la question.
Oui.
Ça va.
Mais non, mais je suis d'un tempérament très joyeuse, très... très...
Enfin, positif.
Oui, très positif, très agréable, avec de l'humour. Donc forcément, ça... Ça déstabilise beaucoup quand on dit « bah non, ça va pas, en fait. Là, ça va pas. Là, je suis pas bien. Bah ouais, je vois un psychologue. Bon, alors, c'est pareil, c'est quand même quelque chose de très tabou. Pas du tout pour moi. Maintenant, je conseille à tout le monde. Mm. J'ai fait de l'EMDR, tu devrais faire ça. Enfin, essaye.
On peut-être aime que... l'EMDR, moi j'adore.
Ah ouais, mais c'est
mais
incroyable.
C'est
hein.
un travail difficile.
Oui, ah ouais. Ouais.
C'est difficile, l'EMDR, quand même. C'est intense, mais tellement bénéfique. Mm. Enfin, les résultats sont tellement fous. Mm. Et
c'est
en vrai,
au-delà
on y
des
va quand on est prêt.
Ah,
je
oui,
pense
oui.
pas que l'EMDR soit d'ailleurs une thérapie à faire en première intention, clairement
bah,
pas.
Moi, je suis allée pour faire de l'EMDR, en me disant, je veux régler ce traumatisme.
Mais parce
de...
qu'en fait, t'as vraiment cet imaginaire de, mais en fait, je vais faire ça, comme ça, je n'aurai plus de problème. Sauf qu'en fait...
C'était pas ça le problème.
Bah, non.
Mais moi, je ne savais pas.
Mais en fait, il y en a beaucoup. Parce que moi,
bien sûr.
Parce que j'ai parlé pas mal de MDR sur Instagram. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages des personnes qui me demandaient soit le nom de mon praticien, ou soit genre, est-ce que ça marche vraiment? Mais dans ce est-ce que ça marche vraiment, c'est est-ce que vraiment il y a un moyen de prendre une gomme et d'effacer le trauma?
Bah,
eh bien, non.
Non
le trauma, il est toujours là. C'est juste qu'aujourd'hui, tu apprends à vivre avec et tu apprends à ce qu'il soit moins activé dans ton quotidien.
Oui, c'est ça.
C'est juste ça. Ça n'efface rien.
Ah non. Et puis. C'est ce qui fait aujourd'hui que moi, je suis comme ça maintenant. En fait, c'est rigolo parce que j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel et les grandes phrases qui ressortent, c'est « il faut toujours tirer du positif de ce qui t'arrive ». Alors, va tirer du positif d'un cancer pédiatrique de ton enfant de 2 ans. Bon. Et en fait, moi, j'étais centrée sur Léon, trouver du positif chez Léon. Mais en fait, c'est pas chez Léon que je dois trouver du positif. Lui, il en trouvera peut-être quand il sera grand, en fait. Cette force, ce courage qu'il a, ça vient peut-être de là. Mais moi, je dois trouver moi ce qui est sorti en positif, en fait. Et comme j'étais centrée sur Léon et pas sur moi, encore une fois, j'ai pas trouvé. Maintenant, aujourd'hui, si tu me poses la question, je te dirais, je me suis découverte, en fait. Et je me suis soignée. Et j'apprends aujourd'hui à être moi et à être bienveillante avec moi, à accueillir tout ce que je peux ressentir. C'est des choses que je faisais pas du tout avant, qu'on nous apprend pas quand on est enfant.
Non.
Du coup, aujourd'hui, je suis plus du tout la même. Plus du tout la même
que
j'étais...
Ça permet de transmettre à tes enfants aussi.
Totalement. Alors, le problème, c'est que moi, c'est mon travail de faire ça. Moi, les émotions, c'est un objectif que je travaille presque dans toutes les familles où je vais. Sauf qu'à la maison, moi, j'y arrivais pas, parce que j'étais pas connectée à moi, en fait. Donc, je peux pas l'apprendre à mes enfants. Donc, forcément, là, ça donne tout à fait une autre dimension à tout ça.
Ouais.
C'est plus du tout pareil, en fait.
Carrément. Moi, j'ai deux questions qui me viennent.
Oui.
Comment s'est construite ta relation avec Augustine et comment elle est aujourd'hui?
Ben, je suis très fusionnelle avec elle. Elle ne veut que moi, d'ailleurs. Elle rejette Clément. Pardon, Clément. Mais non, ils sont en train de nouer une relation. Ils y arrivent parce que je laisse de l'espace. Oui, mais c'est une phase qui dure 2 ans et demi. Oui. Donc, en fait, Clément, il a du mal aussi à trouver sa place. Mais en même temps, c'est moi qui ne laissais pas non plus ma place parce que moi, la première chose que j'ai dit quand je suis arrivée chez la psychologue, c'est je veux donner à temps à l'un et à l'autre et je veux rattraper tout le mal que j'ai pu lui faire pendant la grossesse.
C'est ce que je pensais vraiment.
Et en fait, elle me dit déjà, on ne peut pas donner à l'un et à l'autre parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Et ça, moi, je n'avais pas cette notion-là du tout.
Et puis, il y a une différence entre avoir un enfant seul et avoir 2 enfants.
Exactement, ça n'a rien à voir, je confirme. Et puis, Augustine, elle est comme elle est, en fait. Elle est...
C'est pas Léon.
Non, c'est pas Léon. Et en même temps, ils se ressemblent beaucoup, mais ils sont différents. Et elle est là. Elle fait son petit bonhomme de chemin, en fait, Augustine. Elle est discrète, mais elle sait se faire entendre. Les nuits, elle les a fait beaucoup plus rapidement que Léon. Enfin, il y a quand même beaucoup de différences. Mais j'ai cette relation de... Je veux pas lui faire du mal, quoi. En fait, des fois, je dis, oh, ça va, là, c'est souffert. Mais non. Oui, elle a souffert, mais autant que Léon, autant que moi, autant que Clément. Mais
et c'était une partie de vie. Ça veut pas dire que t'as... Genre, t'as pas un quota, tu vois. Malheureusement. C'est dommage.
Bah oui, c'est dommage.
On n'a pas un quota et il va bien falloir des épreuves dans sa vie, elle en aura d'autres.
Oui. Oui, mais je trouvais ça hyper dur d'avoir vécu ça déjà in utero.
Bien sûr.
Je me dis, mais la pauvre, elle part avec un bagage. Et effectivement, j'ai consulté des kinésiologues, des micro-kinés, parce que je veux travailler sur un peu ce qui s'est passé de manière inconsciente, en fait. Parce que je veux qu'elle ait toutes les clés pour. Pour bien grandir, quoi. Bien évoluer.
C'est chouette de lui faire ce cadeau-là.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, là, on va y repartir chez le micro-kiné prochainement, parce que là, elle est rentrée à l'école, grosse séparation avec moi, avec la maison, avec tout, beaucoup de monde. Le sommeil, c'est compliqué en ce moment. Enfin, on voit des petites périodes de régression, on a enlevé la couche. Enfin, ça fait beaucoup de choses et je me dis, allez, ça va pas te faire de mal.
Why not, après tout. Mais c'est ça.
Ouais. Et d'ailleurs, j'ai aussi consulté ce micro-kiné et ça... Enfin, j'en parle parce que je trouve que c'est des professions qui ne sont pas du tout mises en avant. Mais moi, ça a été incroyable.
Ah oui ? Ça a fait quoi, en fait ?
C'est très difficile à expliquer parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses qui ressortent dès la grossesse donc de ma mère et jusqu'à hier. Hein. Et je ne sais pas si tu connais le principe du micro-kiné.
Bah, pas tant, non.
Alors, je ne vais pas me tromper, je fais partie de la profession, mais en gros, c'est... Il te touche, en fait. Il te touche, t'es habillé, il te touche. Et puis, il touche différentes zones de ton corps. Et il passe un peu sa main au-dessus. Et puis après, il te raconte ton histoire. Bah alors, pendant la grossesse de votre maman, il s'est passé ça. Puis à 7 ans, il s'est passé ça. Puis là, à 14 ans, oh tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il s'est passé ça. Ouais. Vous avez eu une séparation, vous avez eu un deuil, vous avez eu ça.
Il capte des énergies qui...
Traumatiques. Ouais. Le corps l'entend. Moi, je l'entends, je le conscientise. Si je m'en souviens, bah, c'est tant mieux. Il me dit, bah, tant mieux, comme ça, vous l'avez en tête. Si vous n'en souvenez pas, c'est pas grave, votre corps, il va l'expulser. Et alors, autant te dire que mon corps, il a expulsé pendant 8 jours. Et je m'en souviens encore, c'était une période affreuse. Tellement de colère, de rage, de tristesse qui sont sorties. C'était pendant la semaine des vacances de la Toussaint. Hein. C'était affreux. Mes enfants ont passé une semaine d'enfer avec moi. Mais après ça, franchement, j'ai senti un état de bien-être. Comme j'avais pas senti depuis déjà longtemps.
Alors il faut le faire, mais pas pendant les vacances.
Alors, ouais, et ben,
bah, si, mais pas les vacances de tes enfants.
Bah, pas quand on est seul avec eux, en fait. Ça, si je pouvais donner un conseil, Après, moi, je l'ai fait il y a pas très longtemps pour Léon. Comme c'était il y en avait que 2 des traumatismes, parce que je l'avais déjà fait quand il était plus jeune. C'était moins long.
Ouais.
Après, moi, c'est parce que
t'es une adulte, t'as plus de temps.
Voilà, c'est ça. J'ai quand même un bagage. Et puis en fait, moi, j'ai toujours tendance à dire que, à part Léon, j'ai jamais eu de traumatisme dans ma vie. Bon, c'est pas vrai. J'en ai eu quelques-uns dans ma jeunesse. Ouais. Voilà. Donc,
mais on en a tous, hein.
Oui, mais moi j'avais un énorme tapis, un beau tapis où je mettais tout en dessous en fait. Et donc la thérapie, le micro-kiné a vraiment fait table rase de tout ça. Maintenant c'est sur le tapis, c'est au-dessus et je vis à côté, voilà. Ouais. On cohabite. C'est là, mais ça fait pas trop mal. Non, mais la micro-kiné m'a fait énormément de bien aussi. Enfin, c'est vraiment le cumul de l'écrit, la thérapie, le MDR, plus la micro-kiné. Qui ont fait vraiment qu'aujourd'hui, je vois du ciel bleu dans ma vie. Comme là.
Du ciel bleu aujourd'hui.
Exactement. Ah ouais, franchement,
c'est chouette.
Je sens un renouveau en moi.
Ouais. Voilà. Et ma deuxième question est ton couple.
Ha!
Parce que le couple, dans la parentalité, quand tu deviens parent, c'est déjà un truc, mais alors dans la maladie, et tout cumulé.
Alors, je dirais que pendant la période de la maladie de Léon, on a été extrêmement proches, extrêmement bienveillants l'un envers l'autre. Malgré tout, on n'avait pas les mêmes émotions. On ne ressentait pas la même chose. Peut-être que lui, il était plus triste en colère, et moi, j'étais très en colère contre je ne sais pas quoi, parce que du coup, on ne peut pas être en colère contre une maladie, hein, c'est rien. Ensuite, avec Augustine, on s'est aussi beaucoup rapprochés. C'était un peu après, en fait, que ça a été un peu difficile, parce que ben, quand on a repris nos travails, quand la vie a repris son cours, en fait, cette parenthèse qui n'était pas du tout enchantée, mais qui était quand même une parenthèse où on était très proches les uns des autres, on n'avait pas le choix de s'entraider tous. Après, on s'est un peu éloignés, ça a été un peu difficile. Et puis, disons-le, un deuxième enfant, un deuxième postpartum... Enfin, c'est dur, quoi. Pour le couple, enfin, deuxième
les
enfant...
Les difficultés psychologiques aussi qui sont liées, c'est pas simple.
Ouais. Alors, Clément a toujours été d'une extrême gentillesse et d'une extrême bienveillance envers moi, même s'il ne comprenait pas toujours pourquoi j'étais en arrêt, pourquoi j'arrivais pas à passer au-dessus. En fait, comme on fonctionne de manière différente, lui, il va aller courir, il va courir très vite ou crier, ça va passer.
Ça va sortir.
Et moi, en fait, pas du tout. Moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de... Ouais, je sais pas, en fait, ce que j'ai besoin... Enfin,
t'avais besoin de sortir, tout simplement, t'avais pas trouvé ton moyen d'expression.
C'est ça. Et du coup, on avait du mal à se comprendre à certains moments. Là, aujourd'hui, aussi, le fait que j'aille mieux, tout va mieux, quoi. Ouais, tout va mieux. Et puis, en parallèle de tout ça, Clément, il a quand même arrêté sa carrière d'éducateur spécialisé pour partir en restauration. Donc, il a aussi eu des horaires à un moment donné qui n'étaient pas du tout simples. Et donc, on s'est vraiment là perdu. Où moi, j'étais beaucoup à la maison parce que j'étais en arrêt. Et lui, pas du tout. Ouais. Donc, c'était très compliqué. Mais,
des nouveaux repères à prendre aussi.
Tout à fait. Puis, il a changé 3 fois de resto. Donc, du coup, forcément, ça a été... plein d'ajustements, je dirais. Ouais. Mais aujourd'hui, oui, ça va beaucoup mieux. Et j'ai à cœur aussi de remettre aussi notre relation un peu en lumière, parce que les enfants, ils ont été très, très en lumière. Ouais. Et ils le sont toujours. Mais on
ils
peut
ont
faire de la...
Et oui, c'est à une autre étape.
Ouais. Augustine, là, elle est à l'école. Donc, effectivement, on retrouve du temps aussi. Puis là, il a une stabilité au niveau du travail qui lui permet d'avoir ses soirées. Donc, on peut vraiment... je vois un avenir, en fait. Je vois vraiment du ciel bleu pour tout le monde, en fait. D'abord pour moi et après pour eux aussi.
C'est important ce que tu viens de dire. Oui. D'abord pour toi et après pour eux.
Ah oui.
Ça, c'est essentiel, mais qu'on traverse la maladie ou pas, enfin, je veux dire, c'est le plus important. C'est Muriel, dans un épisode qui est sorti début janvier, qui disait ça. Tu es la personne la plus importante de ta vie, et c'est vrai, quoi.
Oui.
C'est ça.
Mais en fait, avant de vivre quelque chose comme ça, jamais je me serais positionnée en première ligne, en fait. Ouais. C'est parce que j'ai fait tout ce travail, c'est parce que j'ai vraiment souffert que je me suis dit, c'est pas possible que je reparte dans un état comme ça. Et la seule manière de pas repartir dans un état comme ça, c'est d'être d'abord consciente de mes besoins. Et il y a aussi une formation que j'ai faite sur de la CNV. Je l'ai fait dans le cadre de mon travail. Donc c'est la communication non violente. C'est rigolo parce que dans mon cahier, j'écrivais toujours les émotions. Mais ça n'allait pas plus loin. Et sortir son émotion, oui, bon, on l'a sorti, ça, c'est vrai que c'est bien. Mais en fait, c'est ce que disait Muriel, justement, cette émotion, elle est en réaction à un besoin qui a été écouté ou pas. Et quand j'ai une réaction négative, ça veut dire que j'ai un besoin qui n'a pas été écouté, en fait. Et donc, maintenant, j'ai vraiment cette gymnastique d'esprit de me dire, là, je suis en colère, qu'est-ce qui fait que... Quel besoin n'a pas été entendu pour que j'ai cette colère-là ? Est-ce que j'avais besoin d'être seule à ce moment-là ? Est-ce que j'avais besoin d'aller courir ? Est-ce que j'avais besoin de je sais pas, enfin, on a divers besoins, en fait. Et cette formation, je l'ai faite dans le cadre du travail. Et en fait, elle me sert un peu. un petit peu, si, quand même un peu. Mais elle me sert beaucoup plus en perso, en fait. Et j'ai vraiment découvert, encore une fois, ce que c'était de se mettre au centre de soi, de sa vie. Et vraiment, je n'avais pas du tout conscience de ça.
En fait, on a une perception hyper négative, égoïste de ce truc-là, de se mettre au centre.
Oui, parce qu'on
pense
qu'on
est égocentrique. Je crois que c'est le truc le plus altruiste possible, parce qu'en fait, c'est en te mettant au centre que tu peux être disponible pour les autres aussi.
Oui.
Que tu peux être la meilleure mère pour tes enfants, que tu peux être une compagne présente, une épouse, enfin tout ça, que tu peux être une bonne amie, que tu peux être tout ce que tu as envie d'être, même au travail. Hein. Je veux dire, si t'es pas toi au centre, c'est pareil, tu peux pas travailler correctement. Et c'est l'acte le plus altruiste possible, en fait, de se mettre au centre. Tu peux pas sauver quelqu'un si tu sais pas nager.
Bah non. On peut toujours essayer, mais bon,
bah, tu vas couler avec. Ça sert à rien. C'est un peu con.
Est-ce qu'il y a deux personnes à sauver?
Bah oui, mais c'est vrai. Et c'est ça.
Oui, oui.
C'est que tu peux pas aller aider quelqu'un si t'es pas en capacité, toi, de l'aider. Mmh. Et c'est triste pour la personne qui a besoin d'aide, mais en fait, il y a des ressources autres. Et ça, c'est pareil, tu vois, c'est avec qui je disais ça? Avec Louise, dans un autre épisode de podcast sur Friendship. Tu peux pas venir en aide à quelqu'un. Enfin, tu peux pas être le psychologue de ton ami, tu peux pas être le psychologue de ta femme, tu peux pas avoir ce rôle-là. Tu peux écouter, tu peux entendre la détresse et les diriger, mais tu peux pas la prendre pour toi, c'est pas possible.
Bah après, tu cumules, quoi, sinon.
Ça fait beaucoup pour une seule personne. Ouais. Et en fait, quand t'as les ressources en interne, justement, quand tu as bien pris soin de toi, quand tu t'es bien remis au centre, comme tu dis, c'est hyper important, bah en fait, tu vas pouvoir orienter tes amis. Tu vas pouvoir être là pour eux. S'ils ont besoin d'aller boire un verre, tu vas pouvoir aller boire un verre. Si t'es toi, ta seule envie, c'est d'être dans ton lit, dans le noir, sous ta couette, devant Netflix, et que tu vas te forcer... Parce que tu vas le faire, parce que tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux, que tu vas pas... Enfin, la pauvre amie, elle a besoin de toi, elle s'est fait larguer. C'est triste, mais c'est horrible. Et why not? Mais en fait, il y a des moments où tu peux pas. Et d'accepter de dire non, là, je ne peux pas, mais en fait, c'est lui rendre service aussi à son ami. Parce qu'en fait, tu pourrais l'emmener avec toi.
Oui, c'est ça.
Ouais. C'est ça. Et c'est te rendre service à toi, et c'est hyper, hyper, hyper important.
Mais il faut l'expérimenter, il faut essayer, il faut se prendre des murs aussi, bien sûr. Pour se rendre compte, en fait.
Mais c'est beau ce que tu fais. Pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour tout ça, c'est hyper important. Et bon,
c'est dommage qu'on doive passer par des épreuves comme ça.
Oui, c'est dommage. On devrait l'enseigner. Parce que moi, j'essaye du coup de faire ça aux enfants, même avec les enfants avec qui je travaille, c'est de les centrer, en fait, sur eux. Pas les armer, parce que ça ferait guerre, ça ferait conflit. Leur donner des bagages pour se dire, j'ai un coup dur, mais bon, voilà.
Mais tu sais, alors pour les enfants avec qui tu travailles, je ne sais pas, je ne vais pas t'apprendre ton métier, mais pour tes enfants, toi, c'est toi le meilleur exemple, en fait. Parce qu'ils te voient au quotidien.
C'est bien le problème, des fois.
Non, mais enfin, je veux dire, mais maintenant tu le fais.
Oui.
Et en fait, on s'en fout que tu ne faisais pas avant. Le principal, c'est que maintenant tu le fais. L'avantage, c'est qu'ils ne se souviennent pas de ce qui se passe avant. Donc, c'est bien maintenant.
Normalement, non.
Donc, c'est bon. Et puis, en fait, en vrai, il n'est jamais trop tard, même si c'est à 14 ans. Quand ils ont 14 ans, que tu commences à le faire, c'est pas grave.
Ça montre justement que tu sais te réajuster et que l'erreur, elle est humaine, en fait.
Mais c'est le meilleur exemple de. Tu vois, je t'ai donné des exemples. Enfin, moi, ce que je disais en off, c'est qu'en ce moment, je vis une période compliquée, le deuil, tout ça. Mais en fait, si je suis triste, je suis triste, en fait. Et je l'explique à ma fille.
Ah bah oui,
dit, c'est le jeu. Elle m'a demandé, maman, on ferait pas une pyjama partie avec mes copines? Je fais, alors oui, ma chérie, par contre, là, pas avant plusieurs semaines, parce que là, maman, elle peut pas. Quand j'aurai digéré ma tristesse et que ça ira mieux, oui, on le fera. Mais en fait, juste de lui expliquer que, bah déjà, c'est pas contre elle. Oui, que c'est pas que moi, je veux pas faire une pyjama partie avec ses copines, c'est juste qu'en fait, je n'ai pas l'énergie, j'ai à peine l'énergie pour elle, c'est pas pour avoir l'énergie pour une copine. Et juste d'être honnête, sincère dans dans ce qui se passe vraiment, mais ça rend service. Elle a pas cherché midi à 14h, mais ah bah oui maman, c'est vrai,
t'as raison.
Et puis mais c'est tellement normal et maintenant, en fait.
Oui. Et je trouve que ça apporte beaucoup d'authenticité, en fait, d'être comme ça, parce que tu te montres comme tu es. Et moi, c'est rigolo parce que les gens du coup autour de moi maintenant me disent ça, on sent vraiment que t'es bien en ce moment, t'es là, t'es apaisée. Et du coup, en fait, j'ai plus besoin de lutter contre quoi ou qui. Je suis là, quoi. J'accepte. Et puis, des fois, c'est des mauvais jours. Maintenant, je peux le dire, il y a plus de bons jours que de mauvais jours. Il y en a encore des mauvais jours.
Mais les mauvais jours, ils sont pas là pour rien.
Eh bien non, tout à fait.
Tu peux pas avoir la lumière si t'as pas la pluie. Tu peux pas avoir le printemps si t'as pas l'hiver.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec tout ce travail. C'est qu'effectivement, pour avoir de la joie, il faut de la tristesse.
Elles sont aussi valables les unes que les autres, c'est juste qu'en fait, on les valorise pas de la même façon. On parle parfois... Je suis tombée sur un truc que j'avais partagé sur Instagram cette semaine sur les émotions, qui disait, il y a pas des... En fait, on parle d'émotions positives et d'émotions négatives. Non.
Intense ou
pas intense? Je veux dire comme si... Non, parce que tu peux avoir une joie intense et une tristesse intense. Et pourquoi il y en a une qui est positive et l'autre qui est négative? C'est parce que l'une, il y en a une qui fait plus de bien que l'autre. C'est plus agréable. Mais...
il n'y en a pas une qui doit être éliminée, tu vois.
Ah non, au contraire.
Elles ont leur juste place, toutes les deux, tu vois. Et c'est vraiment ce truc-là de... Ouais, la joie, quand elle est intense, c'est extraordinaire et c'est génial. Et tu sais, t'es lumineux, tout ça. Mais quand la tristesse, elle est intense, c'est ce qui permet de vivre cette joie intense aussi. Tu peux pas connaître l'intensité seulement d'un côté. Ça marche pas, c'est pas possible. Et elle fait partie de la vie parce qu'en fait, ben, sur une vie longue... qu'on s'espère longue, bah on vit des épreuves en fait, tous et toutes, et c'est comme ça, et ça fait partie du jeu, et ça fait partie du contrat qu'on a signé en arrivant sur cette planète, j'en sais rien.
On n'est pas au courant aussi.
On n'est pas au courant, mais tant mieux.
Oui, hein, c'est vrai.
Parce que imagine, c'est, alors, en 2020, il y a le cancer.
Super.
Tu dis, bah non, en fait, t'y vas pas.
Non, bah non.
T'y vas pas.
Non, tu vas en reculant.
En même temps, c'est négatif, ce que tu as vécu et tout ça, c'est une épreuve que tu aurais préféré pas vivre et que personne n'a envie de vivre. Mais en même temps, aujourd'hui, t'as tes enfants et ils sont là. Et toute la joie que tes enfants t'apportent, en fait, c'est tellement plus que ça.
Ah oui, oui. Oui, oui, mais vraiment pour s'en rendre compte et pour... Bah, il faut être soi, en fait. Ouais. Il faut être dispo, quoi. Et...
C'est ça.
Ouais, parce que...
Ça veut pas dire que merci le cancer, hein. Vraiment.
Ah non, non,
ah
pas
non
du tout.
Jamais.
Ah non, non, non.
C'est pas ça.
Non, mais de toute façon, comme tu dis, dans la vie, il y a des épreuves. Il y a aussi des bonnes épreuves, hein. Un nouveau boulot, une nouvelle maison, un déménagement. Enfin, ça peut être aussi cool. Mais il faut le traverser, en fait. Et c'est ça le plus dur, c'est d'accepter et de se dire que, à l'issue, il y a quelque chose, quoi.
C'est ça. C'est que quand t'es dans le noir, c'est vivre le noir et pas essayer de le peindre dans des couleurs pastel, parce que c'est ce que tu veux absolument voir, quoi.
Clairement, à chaque fois, dans ces trois moments un peu délicats, j'étais dans le noir, j'avançais. Hein. J'étais en mode automatique, mais je veux dire, je faisais ce que je faisais, j'essayais pas de trouver de la lumière ni rien. Au contraire, je trouvais que j'étais efficace, je vivais un peu... Je me suis écoutée, par exemple, en disant, là, j'ai envie de voir personne, là, oui. Et c'est après, en fait.
Ouais.
Tu vois, c'est vraiment le après où tu te dis, mince, j'ai traversé ça, mais je suis perdue, je ressens des trucs, pourquoi maintenant? C'était, tu vois, c'est là où t'es perdu et c'est là où justement les thérapeutes...
Et t'as besoin d'aller chercher de l'aide.
Ouais.
Mais justement, tu vois, il y a tristesse et tristesse, tu vois, c'est-à-dire qu'on dit la tristesse passe, ça dépend de ce que tu vis en fait. Il y a la tristesse si tu la vis, que tu, enfin, qui est là, bah oui, elle passe celle-ci. Et c'est si elle passe pas, déjà qu'il faut aller commencer à s'inquiéter. Si elle reste, si elle est latente, si elle peint tout ce que tu fais dans la vie dans sa couleur, en fait, qu'il faut commencer justement à dire, ah ben en fait, là, non. Il y a tristesse que j'identifie et que je sais qu'il va passer parce qu'elle y est à un événement, et il y a tristesse de ce qui vient de l'intérieur de toi. C'est pas la même chose.
Ah non, non, non.
Parce que t'es triste parce que ton fils a un cancer, c'est normal, mais quand t'es triste et qu'il y a un truc à l'intérieur de toi qui rend tout le reste triste et qui a été déclenché certes par le cancer, mais...
Ouais, c'est une dépression, là.
C'est pas pareil.
Non,
c'est pas du tout la même chose.
Non, parce que t'as pas de jour où il fait beau, quoi.
Non.
T'as que des jours gris, noirs.
Ouais. Et c'est pas la même chose et il faut aller chercher de l'aide.
Ouais.
Et de l'aide de professionnels. Parce que majoritairement, les gens qui vous connaissent vous aiment trop pour vous aider.
Ben, quand tu fais de la CNV, par exemple, non.
Oui, mais la plupart des gens ne le font pas, de la
CNV. Tout à fait. Puis dès qu'il y a l'affect, en fait, non. C'est ça, il va du bon conseil. Moi, j'ai reçu des phrases toutes faites. Faut profiter de l'instant présent. J'avais juste envie de raccrocher, quoi. Je supportais pas ces phrases-là. Alors oui, sur le principe, je sais bien ce qu'il faut faire. Sauf que j'avais juste envie d'être soutenue, j'avais juste envie d'être écoutée. Bah, juste écouter, en fait, qu'on accueille, voilà. Ouais. Ah, t'es triste, ah
viens.
Okay. Bah ouais,
genre,
c'est ça.
Je t'écoute, ou viens, je suis là.
Voilà.
Bah, en fait, t'as même pas besoin de parler, c'est juste, tu t'es avec
juste
la
présence, ouais. J'ai ma cousine qui m'a déposé des gâteaux, alors qu'elle a beaucoup de route, quand même, pour venir, quoi. Et elle a fait l'aller-retour pour me déposer une boîte de gâteaux. J'étais tellement touchée par son attention, elle a pas su me donner des mots, ni rien, et j'en voulais pas non plus, parce que j'étais dans ma bulle, mais en même temps, son attention,
Ça veut dire je pensais à toi.
Mais oui, je pensais à toi, je peux rien faire, mais ça je peux faire.
Mais je suis là.
Bah ouais.
Apporte à manger. Alors la nourriture, ça marche toujours, ça.
Ah, surtout quand on est enceinte.
N'importe quand, si vous n'avez pas quoi faire, amenez à manger.
Non mais c'est vrai, c'est des petites attentions. Ouais, c'était hyper agréable. Parce que, en fait, ça veut dire qu'elle pense à moi, ça veut dire qu'elle a de la peine pour moi probablement, mais que... Elle n'a pas les mots, mais en même temps, elle fait quand même quelque chose pour moi.
Oui, puis en fait, c'est toujours mieux de faire ce genre de choses plutôt que de dire quelque chose de maladroit qui ferait plus de mal qu'autre chose.
Après, malheureusement, il y a toujours des gens maladroits et même moi, j'ai pu l'être, voilà. Mais arrêter de juger l'autre, quoi. Enfin, comme on disait tout à l'heure,
Mais en fait, c'est difficile aussi d'accueillir l'émotion de l'autre quand t'es pas OK avec tes émotions. Oui. Parce que tu vois, toi, aujourd'hui, t'as fait ce travail, et moi aussi, j'ai fait ce travail. Donc, en fait, on peut en parler et on peut entendre et comprendre ce que l'autre dit. Mais il y a 3 ans, t'avais pas fait ce travail-là.
Non.
Est-ce que t'aurais été capable d'entendre ? Je suis pas sûre.
Non, je pense pas.
Mais c'est pas... Tout le monde le fait pas, ce travail, et tout le monde n'en ressent pas le besoin, ou tout le monde a tendance à être... Enfin, on est plus tendance à mettre les choses sous le tapis qu'au-dessus.
Bien sûr.
Je te suis utilisée cette expression-là parce que tu l'as utilisée. ça veut pas dire que quelqu'un est mieux que l'autre, ça veut dire que les cheminements de vie sont différents. Ça veut dire que chaque chose vient en son temps, qu'il y a des gens qui le feront jamais et qui transmettront leurs casseroles.
Tout à fait.
Et les casseroles qui seront transmises seront traitées à une autre génération. Et ça, c'est...
Mais oui.
Ou pas, mais il y a un moment dans une génération où ça sera traité. Ouais. Parce que c'est pas possible autrement. Mais parce qu'il y a des choses qui sont transmises de génération en génération, des casseroles qui sont pas traitées d'avant, mais même 4 générations avant. Et toi, tu les traites et tu vas, mais attends, mais moi, j'ai jamais vécu ça.
Non, mais pourtant, c'est là.
Et c'est comme ça. Donc, en fait, ça, c'est une question de cheminement. On peut pas le contrôler, on peut pas, voilà. Et c'est pas toujours simple quand t'as pas en capacité, toi, d'écouter tes émotions. Mais je me dis qu'en ton témoignage, en parlant de plus en plus de ce genre de choses, et ben, ça peut être. Peut-être que ça amènera plus de personnes à se poser les questions et à accepter de vivre leurs émotions. Parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça, fait mal.
Oui, ça fait mal.
Et en fait, t'as pas envie d'avoir mal.
Bah non.
La thérapie aussi. En fait, on dit... Enfin, moi, je suis la première à dire dans tous mes podcasts, allez chercher de l'aide, allez faire ça. Mais la vérité, c'est que ça fait putain de mal, en fait. La thérapie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des séances plus faciles que d'autres. Mais il y a des séances... tu du resort, t'es en mode carpette, et c'est dur, mais en même temps, l'après, il est tellement ciel bleu.
Bah oui. Hein.
Il est tellement dégagé, l'après, et il vaut tellement le coup qu'en fait, je crois que je le revivrai, moi, 1000 fois, même si c'était douloureux.
Ah bah oui, il faut. Enfin, ouais, le bien-être psychique, c'est quand même... Enfin, quand t'es bien, quoi.
Quand t'as pas envie de mourir quand tu te lèves le matin, c'est quand même agréable.
Bah ouais, quand même, ouais.
Hein
ouais
c'est sympa
ouais. Ouais, ou quand tu dis qu'il y a des perspectives, là tu vois, je me renseigne pour des formations futures, etc. Enfin, là, j'avais l'impression, déjà le postpartum pour moi c'est quelque chose de compliqué je pense, mais j'avais l'impression d'avoir perdu goût un peu à vivre, enfin voilà, je vivais pour mes enfants surtout, et là je reprends plaisir à faire des projets de vacances, à faire des projets perso, je me suis mis à la poterie, enfin voilà, je veux dire... Voilà, je me lance, quoi. Je suis moi, je suis...
Ouais, t'es toi, ouais. C'est ça, c'est toi.
Et c'est vrai que, ouais, il y a 3 ans, on m'avait dit ça, ou même 5 ans, je pense que non, je... Mais non, c'est pas possible. Ben si.
Donc, ouais. C'est ça qui est chouette.
Ouais, c'est chouette.
Merci Camille pour tout ça, d'avoir posé ces mots, d'avoir partagé ton histoire. Si jamais il y a des gens qui ont envie de discuter avec toi, est-ce que tu l'autorises ?
Oui.
Et où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce que tu as un compte Insta, tu as un mail ou alors ils viennent me voir moi et je transmets ?
Bah oui.
On peut faire ça. Ouais, hein, oui. Ça marche très bien, on l'a déjà fait sur des épisodes. Alors des fois, je reçois des mails, je dis ah oui, c'est vrai.
Ça, c'est pas pour moi.
Mais en tout cas, voilà, s'ils ont envie d'échanger avec toi, ils peuvent passer par moi, par Instagram, atelis-du-bas prenons un café ou par mail sur prenonsuncafé.podcast@gmail.com et je transmettrai à Camille qui vous répondra. Merci mille fois, c'était trop chouette de discuter avec toi et puis ben, je te souhaite beaucoup de bonheur et surtout une très longue vie à tes enfants qui continuent à être en bonne santé parce que c'est trop trop important et merci pour tout.
Merci à toi Élise de m'avoir reçue et de m'avoir permis de discuter de ça.
Ça m'a fait beaucoup de bien.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu ? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @elise-du-bas prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis devenue maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. » C'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps que tu as consacré à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.